What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage one. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
Section 4 de Laura, Voyages et impressions. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Laura, Voyages et impressions par George Sand. Section 4. Voyage dans le cristal, quatrième partie. Lorsqu'il m'éveilla, je fus bien surpris de ne retrouver autour de moi aucun de mes compagnons. « Je n'avais plus besoin d'eux, me dit-il tranquillement. Je les ai renvoyés. »« Renvoyés ? » m'écriai-je stupéfait. « Où donc ? Comment ? Par quel moyen ?»« Que t'importe ? » répondit-il en ricanant. « T'intéresserais-tu donc à ces grossiers, voraces et stupides personnages ?»« Oui, certes, autant et plus à coup sûr qu'à des animaux domestiques fidèles et soumis. Ces 10 hommes, et les 2 que nous avons perdus en abordant ici, étaient l'élite de notre groupe. Ils ont montré beaucoup de courage et de patience. Je commençais à comprendre leur langage, à m'habituer à leur costume. » Et tel d'entre eux qui avait à peine figure humaine, avait en lui des sentiments vraiment humains. Voyons, mon oncle, où les avez-vous envoyés ? Cette terre est sans doute un Éden où ils peuvent errer sans rien craindre. Cette terre, répondit Nasia, c'est un Éden que je ne compte nullement partager avec des êtres indignes de le posséder. Ces brutes n'eussent pas vécu ici 3 jours sans nous mettre en lutte contre toutes les forces animales de la nature. Je les ai congédiés. Prends-en ton parti, tu ne les reverras jamais. Non plus que leurs pirogues, leurs compagnons, leurs traîneaux et leurs chiens. Nous sommes ici, et sur toute la mer qui nous enferme, les monarques absolus. C'est à nous de trouver, à nous seuls, les moyens d'en sortir quand il nous plaira. Rien ne presse, nous sommes bien. Lève-toi, prends un bain dans ce charmant ruisseau qui murmure à 2 pas de toi, cueille ton déjeuner sur la première branche venue, et songeons à explorer l'île, car c'est bien une île éloignée de tout continent visible et creusée en coupe, comme je te l'avais annoncé. Seulement, il y a au milieu un volcan d'une hauteur prodigieuse. Mais c'est un phare naturel de lumière électrique et rien de plus. Toute objection, toute récrimination était parfaitement inutile. J'étais seul dans ce monde inconnu avec des êtres plus forts, plus intelligents, plus implacables et plus croyants que moi. Il n'y avait pas à le combattre, mais à l'égaler, s'il m'était possible. Je jetai un dernier regard en arrière et... En montant sur une éminence, je revis le lieu de notre abordage. Soit que la mer les eût mises en poussière, soit que Nasias les eût sauvés et cachés, il n'y avait plus trace de nos embarcations. Quant aux hommes, qu'étaient-ils devenus ? L'empreinte même de leurs pas sur le sable était effacée. Je regardais à mes pieds et j'y vis de légères flaques de sang. Mes mains en étaient imprégnées. Je frissonnais en me demandant si, comme mes malheureux compagnons du Tantale, je n'avais pas pris part à quelque effroyable scène de délire et de carnage. Nasias, qui m'observait, se prit à rire et, cueillant une mûre sauvage de la grosseur d'une grenade, il en exprima le jus devant moi. « Ce que tu vois là, me dit-il, ce sont les traces de ton souper d'hier. » Je voulus encore l'interroger. Il me tourna le dos et refusa de me répondre. Il fallait bien se soumettre. Ayant exploré déjà les environs, il avait un but, et il y marchait. Je le suivis en silence, sans armes, sans munitions, et comme si nous eussions conquis un pays où l'homme n'a plus rien à conquérir. Nous ne fûmes pas longtemps néanmoins sans rencontrer des êtres infiniment redoutables, pour peu qu'ils nous eussent été hostiles. C'étaient des bisons, des mouflons, des rennes, des aurochs, des élans d'une taille très au-dessus de celle qui nous est connue, et tous appartenant à des espèces entièrement perdues sur le reste de la planète. Il est même plusieurs de ces animaux qui ne devraient pas être désignés par le nom que je leur donne, faute de savoir celui qui leur convient, car presque tous me parurent des intermédiaires entre des types disparus et ceux de la faune actuelle. Nous n'y vîmes ni reptiles, ni animaux carnassiers. Quant à ces grands herbivores qui paissaient par troupes immenses dans les régions gazonnées ou bocagères, ils se contentèrent de nous regarder avec un peu d'étonnement, sans frayeur et sans aversion. Ils se dérangeaient à peine pour nous laisser passer, et nous eussions pu les dessiner à notre aise, si nous eussions été munis de quoi que ce soit pour dessiner. Au reste, Nasias leur accordait fort peu d'attention, et ne me permettait pas beaucoup de m'arrêter. Je le suivais à regret, car du moment que nous ne courions de danger d'aucun genre, que personne ne nous attendait plus nulle part, et que nous appartenions entièrement à cette vie nouvelle où nous étions jetés résolument, je ne savais plus guère ce que nous cherchions. Et pourquoi mon oncle, au lieu de se contenter de la réalisation de ses pressentiments dans la limite du possible, s'obstinait à en poursuivre le côté chimérique. Je lui faisais part de mes réflexions à mes risques et périls, car il était devenu impérieux, fébrile, farouche, et je voyais bien qu'en cas de résistance ouverte, il n'hésiterait pas à se défaire de moi. Il me répondait à peine, ou, quand il daignait s'expliquer, c'était pour me reprocher amèrement mon manque de foi et l'épaisseur volontaire de mes plus précieuses facultés. Ce qui me frappa le plus dans la région que nous traversions, ce ne fut pas de rencontrer à chaque instant des espèces nouvelles dans tous les genres d'animaux, de plantes et de minéraux. Je devais m'y attendre sous ces latitudes. Ce fut de les voir grandir en dimension à mesure que nous marchions vers le nord, et ce fait, qui détruisait toutes mes notions rationnelles, ne pouvait s'expliquer que par l'augmentation rapide de la chaleur du climat. Néanmoins, nous n'avions pas encore atteint la région de la chaleur humide et du développement gigantesque. Nous avions gagné les hauts plateaux que supportait la falaise de Tourmaline. Le pic central nous apparaissait de nouveau dans toute sa splendeur, mais il nous était impossible d'en distinguer la base qui reposait dans un cercle brumeux. Je calculais qu'il était à 5 ou 6 bonnes journées de marche, en supposant que nous pussions y arriver en ligne directe, et, en supposant encore qu'il occupait la partie centrale de l'île, je calculais que cette île avait en ce sens au moins 100 lieues de diamètre. Au bout de 2 journées de marche, durant lesquelles nous ne cessâmes de franchir des collines d'un facile accès, nous fîmes halte sur une dernière élévation d'où l'île entière se déployait sous nos pieds. Ce fut une magnifique vue d'ensemble. Toute cette contrée était due à un immense soulèvement opéré à diverses époques géologiques. J'y pus observer la trace de grandes perturbations volcaniques, mais en général, les étages primitifs se montraient à nu et les terrains de sédiments occupaient une médiocre surface. Aucun du reste n'avait résisté à des dislocations violentes ou à l'action continue d'un affaissement général toujours plus marqué par des écroulements à mesure que l'œil interrogeait le point central qui ne présentait plus qu'un effrayant amas de ruines confuses. Nous quittâmes au bout de 3 ou 4 jours les régions fertiles peuplées de quadrupèdes. Aux ravins ombreux, aux forêts pittoresquement échelonnées sur des roches imposantes, aux étroites ravines arrosées d'eau vive et littéralement émaillées de fleurs, succédèrent d'interminables pentes de prairies tourbeuses si profondément délayées que les herbivores ne s'y hasardaient plus, et qu'il nous devint bientôt impossible d'aller plus avant. Comme ces déclivités, probablement supportées par un mur de tourmaline analogue à celui qui s'étendait au revers maritime, surplombaient le fond du cirque, nous ne pouvions supposer des cours d'eau douce considérables contournant le bas de nos plateaux. Les parties qui nous faisaient face paraissaient plus arides, mais la distance était trop grande pour nous permettre une certitude. Forcés de nous arrêter et de nous sustenter de pourpiers et de mousses fort bonnes du reste, nous songions à retourner sur nos pas, pour chercher une pente plus facile, lorsque je fus effrayé par un rugissement d'une nature si particulière qu'aucune comparaison avec les cris des animaux que nous connaissions n'en peut donner l'idée. C'était comme un son de beffroi prolongé, mêlé au ronflement d'une machine à vapeur. Comme je regardais de tous côtés, j'entendis ce bruit au-dessus de ma tête et vis voler quelque chose de si énorme qu'instinctivement je me baissais pour n'être pas atteint par le passage de cet être incompréhensible. Il s'abattit près de nous et je reconnus un individu qui me parut appartenir d'assez près, sauf la taille inouïe au genre mégalosoma. Il était de la grosseur d'un buffle et il en avait d'ailleurs les cornes plates et le pelage foncé. Bien que ce monstre me causât un effroi réel, je ne pus me défendre de l'admirer car c'était à tout prendre un bel animal. Ses élytres et sa cuirasse impénétrable étaient revêtus d'une fourrure épaisse vert olive à reflets dorés, et sur son dos s'élevait majestueusement cette armature en forme de fourche et en matière cornée qui est l'attribut du mâle. Il ne parut pas seulement remarquer notre présence et se mit à brouter autour de nous ainsi qu'eût pu le faire un animal familier. Puis il souleva ses puissantes élytres, développa les plis de ses larges ailes de gaz irisées, et, sans s'élever de plus de 2 ou 3 mètres, alla s'abattre à quelques centaines de pas plus loin. « Cet animal, me dit Nasias, que rien n'étonnait, doit vivre de feuillage, car il a brouté sans plaisir les plantes basses qui croissent ici, et il les a dédaignées. J'aurais cru que, parti des régions arborescentes que nous venons de franchir nous-mêmes, il allait y remonter, tandis qu'il descend vers les déserts arides. Il faut donc que ce grand entassement de roches brisées cache dans ses replis des plantes feuillues, par conséquent, un sol assaini. Je regrette maintenant de n'être pas monté sur le dos de ce coléoptère, dont le vol pesant, mais sûr, nous eût épargné bien des pas inutiles. » C'est une fantaisie que nous pouvons nous passer, répondis-je en montrant à mon oncle une douzaine de ces mêmes scarabées qui volaient au-dessus de nous et paraissaient suivre celui qui leur avait servi d'éclaireur. Il s'agit de gagner le lieu où ils vont prendre pied, avant qu'ils se soient enlevés de nouveau, car s'ils font comme le premier, ils ne fournissent pas de longs vols. En effet, les mégalosomes s'abattirent assez près de nous, et nous pûmes en approcher sans éveiller leur inquiétude. Je ne sais si, à travers la substance cornée qui leur couvrait les yeux, notre image leur apparaissait bien nette. Ils nous parurent fort stupides, et bien qu'ils eussent pu nous broyer avec leurs terribles mandibules, ou nous déchirer avec les hameçons acérés de leurs griffes, ils se laissèrent monter sans résistance. Nous choisîmes 2 mâles de belle taille, Nous nous assîmes sur le corselet, les jambes et les bras passés dans la fourche de leur armature pour assurer notre solidité, et nous nous laissâmes enlever sans aucune émotion. Cette monture est fort douce, seulement le bruit des élytres et le vent des ailes sont on ne peut plus désagréables. « Je pense, dis-je à mon oncle la première fois que nous mîmes pied à terre, que les futurs colons de cette île n'emploieront le mégalosome qu'à porter des fardeaux. Il me semble assez docile pour obéir à une direction et même... Que parles-tu donc de colons ? » s'écria mon oncle en haussant les épaules. « T'imagines-tu par hasard que j'ai fait tant de dépenses et affronté tant de périls pour renchérir durant quelques jours cette sotte espèce humaine qui ne sait que dévaster et stériliser les plus riches sanctuaires de la nature ? Nous n'aurions pas seulement une poignée d'hommes ici durant un mois sans qu'ils fissent disparaître aveuglément ces rares et curieuses espèces animales et détruisent les belles essences des forêts au lieu de les ménager. L'homme est un animal plus malfaisant que tous les autres, ne le sais-tu pas ? Non, non, laissons les bêtes tranquilles, et gardons pour nous seuls la découverte de cette île si précieuse. Pourtant, repris-je, je ne vois pas que nous qui ne sommes que deux, nous respections absolument la liberté de ces bêtes-ci. J'ignore s'il leur est agréable de nous porter, et convenez que, dans votre pensée, elles vous paraissent très propres à vous aider dans le transport des richesses que vous prétendez découvrir. Pas le moins du monde, répondit Nasias. Les richesses que je veux découvrir resteront où elles sont, jusqu'à ce que j'aie pris les mesures nécessaires pour me les approprier. Cette île entière, avec tout ce qu'elle contient dans ses flancs, est à moi. Nul ne l'exploitera que mes esclaves, et s'il m'en faut beaucoup, j'en trouverai beaucoup. En toute autre circonstance, j'eusse combattu les théories antisociales et anti-humaines de mon oncle, mais mon mégalosome soulevait lourdement ses élytres et commençait à les faire ronfler. Je me hâtai de l'enfourcher, jamais expression ne fut plus littéralement exacte, et nous fournîmes plusieurs volées consécutives qui nous permirent d'arriver au bord du ravin de Tourmaline que j'avais pressenti. Là, nos gros coléoptères furent d'un grand secours, car jamais sans eux, nous n'eussions pu descendre cette muraille hérissée de cristaux gigantesques. À peine fûmes-nous arrivés en bas, non sans quelques vertiges, je l'avoue pour mon compte, que nous vîmes un large et impétueux torrent qui jaillissait à travers des forêts magnifiques. Mais au lieu de nous le faire franchir, les mégalosomes s'abattirent sur des espèces d'araucaria de 500 mètres de haut dont ils se mirent à sucer avidement l'écorce gommeuse. Leur marche fantasque à travers les feuilles tranchantes de ces végétaux géants rendit notre situation impossible, et nous dûmes quitter notre monture pour descendre avec précaution et lenteur de branche en branche jusqu'à terre. Là, nous trouvâmes des fleurs et des fruits tout à fait différents de ceux des régions supérieures. Au lieu des baies de rosacées, qui avaient fait le fond de notre nourriture les jours précédents, nous trouvâmes des espèces de chardons comestibles qui avaient la chair de l'artichaut et de l'ananas. Et les œufs d'oiseaux, nous n'en vîmes pas un seul dans ces forêts, furent remplacés par des larves de papillons d'un volume extraordinaire et d'un goût très relevé. Mais il s'agissait de franchir le torrent, et bien nous prit d'aviser sur ses rives des tortues amphibies de 5 à 6 mètres de long qui nous laissèrent monter sur leur carapace et qui, après plusieurs stations capricieuses assez irritantes sur les îlots dont le fleuve était semé, nous firent lentement gagner l'autre rive. « Voilà en somme de bonnes créatures, quoique paresseuses, » dit mon oncle en les voyant rentrer dans les flots. « Elles valent mieux que les hommes, elles ne refusent pas le travail et ne demandent rien pour leur peine. » Plus j'y songe, plus je me dis que les hommes feront le service de mon exploitation sans que je permette à mes brutes d'esclaves de contrarier les animaux. Nous mîmes un jour entier à traverser cette région forestière qui était admirable de puissance et de majesté. Nous n'y vîmes que des arbres à feuilles persistantes, des houx, des conifères et diverses espèces de genévriers gigantesques. Des reptiles effroyables rampaient dans les amas de pointes sèches qui nous cachaient le sol. Mais ces animaux nous parurent inoffensifs et nous traversâmes les bois sans avoir aucun combat à livrer. Plus nous avancions, plus Nasias montrait de résolution et de confiance, tandis que je sentais je ne sais quelle secrète horreur s'emparer de moi. Ce monde inexploré avait dans sa mâle beauté une physionomie de plus en plus menaçante. C'est en vain que les animaux s'y montraient indifférents à la vue et au contact de l'homme. Cette indifférence même avait quelque chose de si méprisant que le sentiment de notre petitesse et de notre isolement en était décuplé dans ma pensée. Le dôme formé par des arbres auprès desquels les plus beaux cèdres du Liban eussent été des avortons, la grosseur des tiges, la longueur des reptiles qui traversaient les clairières et qui brillaient dans l'ombre froide comme des ruisseaux d'argent verdâtre, les formes rugueuses et les épines démesurées des plantes basses, l'absence d'oiseaux et de quadrupèdes, des vols silencieux de bombyx et de phalènes d'une grandeur insensée, l'atmosphère humide et débilitante, la clarté glauque qui semblait tomber à regret sur un lourd tapis de débris séculaires, de grandes mares d'eau morte ou des grenouilles monstrueuses fixées sur nous des yeux vitreux et stupides, tout cela semblait nous dire « Que faites-vous ici ? Où l'homme n'est rien et où rien n'est fait pour lui ?» Enfin, le soir, nous nous trouvâmes dans un site découvert et, à la clarté de la couronne boréale qui devenait de plus en plus intense, nous vîmes qu'un grand lac nous séparait de la base du pic. Ceci détruisait toutes les fantaisies dont mon oncle était bercé sur l'existence d'une excavation accessible et me confirmait dans l'opinion que je m'étais faite en voyant le cône sortir d'un cercle brumeux. Pour la première fois, je vis Nasias découragé, et comme il gardait le silence, je m'enhardis à lui dire son fait. Comment n'avait-il pas prévu qu'une excavation profonde, en quelque lieu du monde qu'elle se trouvât, pût ne point servir de réservoir au cours d'eau, à la pluie ou à la fonte des neiges ? Je me permis même quelques railleries que j'éprouvais le besoin de formuler, car mon association avec cet homme étrange n'était qu'une suite de révoltes de ma raison, à chaque instant paralysée par le vertigineux ascendant qui disposait de moi. Il fut blessé au vif, et je crois qu'il eut un instant la pensée d'en finir avec mes doutes, car il en était aussi irrité et aussi fatigué que je l'étais de son irrésistible autorité, mais il se calma après avoir vomi un torrent d'injures grossières auxquelles j'étais loin de m'attendre de la part d'un homme aussi réservé. « Voyons, dit-il. Nous avons tort, tous deux cette fois. Voilà pourquoi je te pardonne. J'ai eu un moment de défaillance, et j'en suis puni par un accès de colère qui risque de diminuer mes forces intellectuelles et physiques. L'homme ne vaut que par la foi. Reprends la tienne, ou tu es perdu. » Et il me donna le diamant à regarder. Aussitôt l'image du cône, nimbée de flammes purpurines, s'y peignit, comme si j'y touchais, et dans ce lac irisé qui entourait la base du pic, je reconnus un sol indéfinissable mais parfaitement solide sur lequel Laura marchait avec assurance en m'invitant à la suivre. Cette vision produisit sur moi son effet accoutumé. Elle me transporta dans la délicieuse région de l'impossible, ou plutôt, elle dissipa comme un nuage trompeur ce mot impossible écrit au seuil de toutes les découvertes. « Partons !» dis-je à mon oncle. « Pourquoi nous arrêter ? Est-ce que la nuit règne dans ces régions privilégiées ? Est-ce que nos forces, décuplées par l'effet de l'électricité qui se dégage ici de partout, ont besoin d'un repos de 6 heures ? Marchons encore, marchons toujours. Je sais où nous allons maintenant. » Laura nous attend sur le lac d'Opale. Hâtons-nous de la rejoindre. Nous marchâmes toute la nuit, qui fut très courte d'ailleurs, car j'estime que nous étions par 89 degrés de latitude et que nous approchions des jours où, pendant 6 mois, le soleil est au-dessus de l'horizon. Au lever du soleil, un spectacle effrayant et sublime frappa nos regards. Il n'y avait ni brume, ni roches entassées à la base du pic, et nous distinguions parfaitement la forme ronde du gouffre d'où il s'élançait jusqu'au nu. Ce gouffre était bien rempli par un lac, mais un splendide détail que nous n'avions pu saisir, c'était une cascade circulaire, également nourrie dans tout son pourtour et qui sortait d'une grotte également circulaire pour se précipiter dans le lac d'une hauteur de 1200 mètres. Cette merveille de la nature me jeta dans l'extase, mais irrita singulièrement Nasias. « Certainement, dit-il, c'est une fort belle chose et sans analogue dans le monde connu, mais je m'en serais fort bien passé. Nous arrivons trop tard. Quelque cataclysme imprévu a ouvert le chemin des eaux à la bouche béante de l'axe terrestre. » « Vous flattiez-vous donc, lui dis-je avec ironie, de trouver un passage souterrain, un tunnel praticable d'un pôle à l'autre ? Sans doute vous avez vu cela dans ces globes de carton que traverse une broche de fer, et vous avez peut-être rêvé que notre globe terrestre roulait sur une forte barre aimantée au debout. J'ai rêvé cela aussi quand j'avais 6 ans, mais vous me permettrez d'en douter aujourd'hui et de trouver très naturel qu'une vaste région de montagnes tourbeuses, disposée en cirque, ait son écoulement circulaire dans le lieu le plus profond. » Si nous avions traversé hier une terrasse sainte et fertile, c'est qu'elle est préservée de l'inondation perpétuelle par le torrent que nous avons franchi à dos de tortue et que ce torrent s'engouffre quelque part sous un sol éminemment compact pour tourbillonner ensuite dans des cavernes invisibles placées sous nos pieds. « Voilà une merveilleuse explication !» dit Nasias d'un ton de mépris et en me lançant des regards féroces. « Donc tu as mal regardé dans le diamant, ou tu m'as menti ? Tu n'as pas vu Laura marcher sur ses eaux trompeuses, tu n'as jamais rien vu qui ait le sens commun et tu t'es moqué de moi. » « Malheur à toi, écolier ignare, compagnon rebelle et incommode, malheur à toi, je le jure s'il en est ainsi. Attendez, lui dis-je avec fermeté, ne vous hâtez pas de me supprimer et de m'envoyer rejoindre l'équipage du Tantal et nos esquimaux conducteurs de pirogues. Il y a peut-être moyen de nous arranger et de concilier toutes nos hypothèses. Avez-vous l'oreille fine ? Croyez-vous qu'à la distance où nous sommes de ce Niagara colossal, vous pourriez en entendre le rugissement ?» « Oui, à coup sûr !» s'écria mon oncle en se jetant dans mes bras. « J'entendrai la puissante clameur de ces eaux jaillissantes, et je n'entends rien du tout, cette cascade est gelée. »« Ou pétrifiée, mon cher oncle. »« Tu as, reprit-il, une sotte manière de plaisanter, mais au fond, tu vois assez juste. » Ce torrent circulaire peut être un terrible épanchement de lave refroidie, et il s'agit de s'en assurer, marchons. Nous entrâmes alors dans la région des décombres stériles. C'était en grand une inondation de lave poreuse et de téphrine comme ces larges courants que l'on trouve en Auvergne et qui occupent tant de surface entre Volvic et Pont-Gibaud, au dire de mon oncle Tungstenius. Je me rappelais sa description qui m'avait paru grandiose mais qui me sembla bien mesquine devant l'étendue de rognons volcaniques qui se dressait devant moi à perte de vue et qui simulait l'aspect d'un bouillonnement subitement pétrifié au milieu de sa plus ardente activité. C'était comme une mer dont les vagues se seraient changées en pierres tumulaires ou en menhirs innombrables. Tout cet océan de roches dénudées avait une couleur uniforme, désolée, livide, et on eût pris le court lichen grisâtre qui les marbrait de sa lèpre pour un reste de pluie de cendres que le vent avait oublié de balayer. Cette journée fut pénible, rien à manger ni à boire. J'ignore comment nos forces ne nous abandonnèrent pas. Enfin nous atteignîmes les bords de ce royaume de la mort, où ce que nous avions pris de loin pour une ceinture de nopales ou de roseaux gigantesques n'était qu'une efflorescence d'énormes pierres ponces calcinées sous les formes les plus bizarres. Le lac s'étendait sous nos pieds, la cascade jaillissait de toutes parts autour de nous, et ses vastes ondes n'étaient qu'une admirable vitrification d'un blanc laiteux avec des translucidités d'opale. Mais comment y descendre ? Notre corniche dentelée surplombait de tous côtés à une hauteur effrayante et nous étions épuisés de fatigue et de besoin. Dans un repli de terrain, j'aperçus une traînée de détritus et bientôt une petite zone de terre végétale où rampaient les racines d'une espèce d'astragale rose. Ces racines nous furent un bienfait inespéré de la Providence. Après en avoir mangé, remarquant combien elles étaient longues et tenaces, j'en cherchais et j'en trouvais qui avaient plusieurs mètres de développement. J'en fis une ample récolte et mon oncle, enchanté de mon idée, m'aida à en faire une corde à nœuds de 25 brasses. Quand nous en fîmes l'essai au moyen d'un bloc de lave attaché au bout, nous vîmes qu'elle était assez solide mais trop courte de moitié pour atteindre un des premiers ressauts de la cascade de verre. Il nous fallut passer la nuit où nous étions, afin de consacrer au prolongement de notre échelle toute la journée du lendemain. Mon oncle parut se résigner, et je me préparai un lit d'asbeste dans un creux de roche d'une coupe fort commode. Nasias me traita de sybarite. « Je le suis, répondis-je, parce que je songe que nous touchons à notre plus grand péril. Je ne suis pas trop mauvais marcheur, à jeun. » comme vous avez pu vous en convaincre, mais j'ai aujourd'hui peu de force dans les bras, et malgré les escapades de mon enfance, je me considère en ce moment comme un très mauvais acrobate. Pourtant, rien ne peut ébranler ma résolution de descendre dans cet abîme. J'ai donc besoin de toute la vigueur dont je suis capable, et d'ailleurs, si je dois faire naufrage au port et si je dois dormir ici ma dernière nuit, je prétends la savourer et la passer bonne. Je vous conseille, mon cher oncle, d'en faire autant. À peine étais-je couché, je n'ose pas dire endormi, car jamais je ne me sentis plus éveillé, Walter vint s'asseoir à mes côtés sans que j'éprouvasse aucune surprise de le voir là. « Ton entreprise est insensée, me dit-il, tu te romperas les os et ne trouveras rien d'intéressant dans ce lieu bizarre. Ceci est à coup sûr un exemple remarquable de la puissance des éjections volcaniques, mais toutes les matières minérales de ce foyer récemment refroidi ont subi un tel degré de coction, si l'on peut ainsi parler, qu'il te sera impossible d'en définir la nature. D'ailleurs, comment rapporteras-tu des échantillons que nous puissions soumettre à l'analyse lorsque tu es si loin de savoir par quels moyens tu te rapporteras toi-même ? Tu parles bien, lui répondis-je, mais puisque tu as pu venir me trouver ici, tu as des moyens de transport dont tu consentiras sans nul doute à me faire part. Je n'ai pas eu grande peine à monter l'escalier de ta chambre, reprit Walter en souriant, et si tu voulais faire un effort de raison, tu reconnaîtrais que ton esprit seul est au pôle arctique, tandis que ton corps est assis devant la table et que ta main écrit les folies auxquelles je m'amuse à répondre. « Tu te moques de moi, Walter, m'écriai-je, ou bien c'est ton esprit qui se reporte follement à notre demeure et à nos habitudes de Fischhausen ? Ne vois-tu pas la couronne polaire, le grand pic d'obsidienne et la blanche mer vitreuse qui l'entoure ?»« Je ne vois, répondit-il, que le chapeau de ta lampe et ton encrier en pyramide avec sa cuvette de faïence. Voyons, éveille-toi au son du piano de Laura, qui en ce moment chante une romance à son père, lequel fume tranquillement sa pipe à la fenêtre du salon. » Je me levai impétueusement. Walter avait disparu. La mer d'opale brillait à mes pieds et l'aurore boréale dessinait un arc-en-ciel immense au-dessus de moi. Nasias, assis à quelque distance, fumait réellement sa pipe et j'entendais distinctement la voix de Laura et les notes de son piano. Ce mélange de rêve et de veille me tourmenta une partie de la nuit. La voix de Laura, si douce dans mon souvenir, prenait en ce moment une réalité choquante, car Laura ne savait guère chanter et elle avait un petit blaisement enfantin qui rendait comique la musique sérieuse. Ce n'est que dans le cristal que sa parole se dégageait de ce défaut. Impatienté, je me mis à la fenêtre de ma chambre et lui criai à travers le jardin de ne pas écorcher la romance du saule. Elle n'en tint compte et de dépit je me recouchai sur mon lit d'amiante où, en me bouchant les oreilles, je parvins enfin à m'endormir. Quand je me réveillai au grand jour, je vis que Nasias avait travaillé sans désemparer et que notre cordage de racines avait atteint la longueur convenable. Je l'aidai à l'attacher solidement et voulus en faire l'épreuve le premier. Je descendis sans encombre, mais dans des pieds quand je pus rencontrer quelques saillies de lave. J'arrivai ainsi à une petite plateforme que la corde ne dépassait point assez pour qu'il ne fût pas nécessaire de la tirer à soi afin de la rattacher de nouveau. En me penchant sur le bord, je vis au-dessus de moi un tas de cendres blanches, comme de la neige, et je n'hésitais pas à m'y laisser choir. Cette cendre était si friable que j'y disparus tout entier. Mais, en me secouant, j'en sortis sain et sauf, et je criai à mon oncle de faire comme moi. Il descendit avec le même succès et nous nous hâtâmes de couper un bon bout de corde pour l'emporter et le manger au besoin, car nous en avions pour 8 ou 10 heures à traverser ce lac de verre et nous n'y apercevions, comme on peut croire, aucune trace de végétation. Bientôt le soleil échauffa tellement cette surface resplendissante que l'éclat en devint insupportable pour nos yeux et la chaleur atroce pour nos pieds. Mais il n'y avait point à revenir sur nos pas, nous étions à la moitié du trajet et nous continuâmes à marcher avec un stoïcisme dont je ne me serais jamais cru capable. Le reflet de la cascade circulaire était si ardent qu'il nous semblait être au centre du soleil. Par bonheur, un coup de vent détacha de la cime du pic central une avalanche de neige qui roula jusque vers nous. Nous prîmes notre course pour l'atteindre avant que la marche nous fût devenue impossible, et ce secours inespéré nous permit d'arriver presque à la base du cône. Là nous attendait une surprise prodigieuse, ou plutôt une amère déception. Depuis longtemps, il nous avait semblé marcher sur une croûte volcanique boursouflée, avec la sonorité du vide en dessous. Nous vîmes alors que cette croûte, brusquement interrompue, était à une énorme distance du pic et du sous-sol, que nous étions portés par une voûte de plus en plus mince et qu'il était impossible d'avancer sans qu'elle se brisât sous nos pieds comme une assiette de faïence. 5 ou 6 fois dans son impatience, Nasias la fit éclater et faillit s'y engloutir. Je parvins à le modérer et à tenir conseil avec lui. Il était fort inutile d'atteindre le cône car il ne serait d'entrée à aucune grotte et il ne paraissait pas avoir jamais servi de bouche à un volcan. En l'examinant de plus près qu'il ne nous avait encore été possible de le faire, nous vîmes que ce pic formidable, couronné d'un glacier aux aiguilles acérées, n'était autre chose qu'un prisme rectangulaire d'olivine, d'un vert pâle et d'un grand éclat, mais homogène et d'un seul bloc de la base jusqu'au faîte. Nous mangeâmes un bout de corde, et j'engageai mon oncle à prendre quelques heures de repos. Dès que la nuit aurait un peu rafraîchi notre lac de verre opalin, nous le traverserions de nouveau. Nous irions chercher notre corde de racine. Nous reviendrions avant la chaleur, s'il nous était possible, et nous aviserions à descendre au fond de l'invisible abîme, placé sous nos pieds. Cette raisonnable proposition ne convainc point à l'ardent Nasias. « Quand je devrais périr ici, répondit-il, je veux voir ce qu'il y a entre nous et ce pic maudit. » Et, s'élançant sur la glace fragile, il se mit à la briser avec fureur à coups de pied, ramassant les fragments les plus gros qu'il put soulever et les lançant de toute sa force pour entamer une plus grande surface. Voyant que nous étions perdus, je ne songeais plus qu'à hâter le moment de notre destruction. Je m'associai à la délirante entreprise de mon oncle et, fracassant les dernières ondulations du lac de verre, je parvins à en détacher une masse considérable qui s'écroula dans l'abîme avec un bruit de vitre cassée et nous permit enfin d'en voir le fond. Quel spectacle étrange et grandiose s'offrit alors à nos regards! Sous la croûte de verre s'ouvrait un océan de stalagmites colossales, violettes, roses, bleues, vertes, blanches et transparentes comme l'améthyste, comme le rubis, le saphir, le béryl et le diamant. La grande excavation polaire rêvée par mon oncle était effectivement une géode tapissée de cristaux étincelants. Et cette géode avait une étendue souterraine incalculable. « Ceci n'est rien, » dit-il avec le plus grand sang-froid. « Nous ne voyons qu'un petit coin du trésor, une marge du colossal écrin de la terre. Je prétends descendre dans les flancs et posséder tout ce qu'elle cache à l'esprit obtus des hommes, tout ce qu'elle dérobe à leurs vaines et timides convoitises. »« Qu'en ferez-vous ? » lui dis-je avec le même sang-froid. Car nous étions arrivés à ce paroxysme d'exaltation intellectuelle qui chez lui produisait le calme triomphal de l'ambition assouvie et chez moi le plus complet désintéressement philosophique. J'ignore si les trésors que nous apercevons ont une valeur réelle parmi les hommes, mais je suppose que ce soient effectivement des mines de pierreries en cristaux de la grosseur des obélisques de l'Égypte, comme vous l'avez prédit. À quoi nous serviront-ils dans cette contrée déserte, d'où il nous sera certainement à jamais impossible de sortir ? Nous sommes venus jusqu'ici, donc il nous sera possible d'en revenir, dit Nasias en riant. Qu'est-ce qui t'embarrasse ? L'île manque-t-elle de bois pour faire de nouvelles pirogues ? Mais ni vous ni moi ne savons faire la moindre pirogue, et encore moins la diriger. « Vous savez donc où nous retrouverons nos Esquimaux ? Voyons, qu'avez-vous fait de ces pauvres gens ?»« Ce que j'ai fait de l'équipage du Tantal et ce que je vais faire de toi !» s'écria Nasias saisi tout à coup d'un rire convulsif. Et, devenu totalement fou, il s'élança au bord de l'excavation, poussa un grand cri et disparut dans l'abîme, entraînant avec lui les minces et sonores parois du lac de verre. J'écoutai quelques instants le grésillement qui suivit la rupture. Le bruit de la chute des cristaux et celle de Nasias fut complètement nul. Je l'appelais, je ne pouvais en croire le témoignage de mes sens. Ma voix se perdit dans l'horrible magnificence du désert. J'étais seul au monde. Je restais pétrifié, il me sembla que mes pieds se fixaient au sol, que mes membres se roidissaient, et que j'étais changé en cristal moi-même. « Que fais-tu ici ? » me dit Laura en mettant sa main sur mon front. « Dors-tu tout debout ? Comment as-tu pu croire au mensonge de ce Nasias ? Il n'a jamais été mon père. C'est un furieux qui accomplit sa destinée. Dieu veuille qu'il soit disparu pour jamais, car son influence funeste paralysait la mienne, et, depuis que tu es avec lui, c'est à peine si je peux, à de rares intervalles, me faire voir et comprendre de toi. Allons, viens et ne t'inquiète plus du gîte et de la nourriture. Avec moi, tu ne connaîtras plus ces vulgaires empêchements de la vie de l'esprit. N'ai-je pas une dot ? Tu es curieux de pénétrer dans cette petite géode qu'on appelle la Terre ? C'est fort inutile. C'est si peu de choses. Mais si cela t'amuse, je veux bien t'y conduire, puisque c'est une curiosité d'artiste, une fantaisie de poète, et non une basse cupidité qui te presse. Je sais le chemin de ces splendeurs souterraines, et il n'est pas besoin de se rompre le cou pour les voir de près. Non, Laura, m'écriai-je, ce n'est ni une fantaisie de poète, ni une curiosité d'artiste qui m'ont amené ici. C'est ta voix qui m'y a appelé. C'est ton regard qui m'y a conduit, c'est l'amour que j'ai pour toi. Je le sais, dit-elle. Tu voulais obtenir ma main en obéissant à ce Nasias, qui n'est qu'un misérable imposteur et un sorcier de la pire espèce, tandis que mon véritable père consentira certainement à te l'accorder quand il saura que je t'aime. Tu as fait bien du chemin, et bravé bien des périls, mon pauvre Alexis, pour chercher le bonheur qui t'attendait à la maison. Veux-tu que nous y retournions tout de suite ? Oui, tout de suite, m'écriai-je. Sans voir l'intérieur de la géode ? Sans traverser le monde des gemmes colossales éclairées du rayonnement éternel de la lumière électrique ? Sans gravir au faîte de ce cône d'obsidienne ou d'amphibole plus élevé que l'Himalaya ? Sans t'assurer qu'il y ait au pôle Nord une chaleur tropicale et que le noyau central du globe ait d'une agréable fraîcheur ? Il serait pourtant bien curieux de constater toutes ces choses et bien glorieux de pouvoir les affirmer à la barbe de notre oncle Tuxtenius et de tous les savants de l'Europe. Il me sembla que Laura se moquait de moi, et pourtant je ne voulus pas en avoir le démenti. « Je crois à l'existence de toutes ces merveilles, » répondis-je. « Mais au moment de les constater, j'y renonce si tu le désires, et si par ce sacrifice je peux obtenir une heure plus tôt que ton père consente à mon bonheur. » « C'est bien, » reprit Laura, en me tendant ses deux mains charmantes. « Je vois qu'au milieu de ta folie, tu m'aimes plus que tout au monde, et je dois te pardonner tout. Viens. » Elle s'approcha du gouffre où s'était englouti Nasias, et, me disant, « Prends la rampe. » Elle se mit à y descendre comme si un escalier fût formé sous ses pas. Je la suivais tenant une rampe imaginaire sans doute, mais qui me préserva du vertige, et nous nous enfonçâmes ainsi dans l'intérieur de la terre. Au bout d'une heure environ, Laura, qui m'avait défendu de lui parler, me fit asseoir sur la dernière marche. « Reprends haleine, me dit-elle, tu es fatiguée et tu as encore à traverser le jardin. » De quel jardin parlait-elle ? Je ne pouvais l'imaginer, mes yeux éblouis du rayonnement de l'abîme ne distinguaient rien. En peu d'instants, cette surexcitation se dissipa, et je vis que nous étions en effet dans un jardin fantastique, où la cristallisation, le métamorphisme et la vitrification des minéraux déployant alternativement leurs splendides caprices, ou pour mieux dire, obéissant sans entrave aux lois de leur formation, avaient atteint les développements les plus merveilleux et les plus étranges. Ici, l'action volcanique avait produit des arborescences vitreuses qui semblaient couvertes de fleurs et de fruits de pierreries, et dont les formes rappelaient vaguement celles de nos végétaux terrestres. Ailleurs, les gemmes, cristallisées par masses énormes, simulaient l'aspect de véritables rochers, dont les plateaux et les sommets étaient ornés de palais, de temples, de kiosques, d'hôtels, de monuments, de toutes sortes et de toutes dimensions. Parfois, un diamant de plusieurs mètres carrés, poli par le frottement d'autres substances disparues ou transformées, brillait enchâssé dans le sol comme une flaque d'eau empourprée de soleil. Tout cela était surprenant, grandiose, mais inerte et muet, et peu d'instants suffirent à rassasier ma curiosité. « Chère Laura, » dis-je à ma compagne, tu m'avais promis de me ramener chez nous, et tu me montres un spectacle auquel j'avais renoncé sans aucun regret. Si je t'en eusse privé, reprit Laura, ne me l'aurais-tu pas reproché quelques jours ? Voyons, regarde bien pour la dernière fois ce monde de cristal que tu as voulu conquérir, et dis-moi s'il te paraît digne de tout ce que tu as fait pour le posséder. Ce monde est beau à voir, répondis-je, et il me confirme dans l'idée que tout est fête, magie et richesse dans la nature, sous les pieds de l'homme comme au-dessus de sa tête. Il ne m'arrivera jamais de dire, comme Walter, que la forme et la couleur ne signifient rien, et que le beau est un vain mot. Mais j'ai été élevé au champ, Laura. Je sens que l'air et le soleil sont les délices de la vie, et que l'on s'atrophie le cerveau dans un écrin, si magnifique et colossal qu'il soit. Je donnerai donc toutes les merveilles que voici autour de nous pour un rayon du matin et le chant d'une fauvette, ou seulement d'une sauterelle dans notre jardin de Fischhausen. Qu'il soit fait comme tu veux, dit Laura. « Mais écoute, mon cher Alexis, en quittant avec toi le monde du cristal, je sens que j'y laisse mon prestige. Tu m'y as toujours vu grande, belle, éloquente, presque fée. Dans la réalité, tu vas me retrouver telle que je suis, petite, simple, ignorante, un peu bourgeoise, et blésant la romance du saule. Hors du cristal, tu n'as que l'amitié pour moi, parce que tu me sais bonne garde malade, patiente avec tes hallucinations et véritablement dévouée. Cela suffira-t-il à te rendre heureux ? Et faut-il que je rompe mes fiançailles avec Walter qui, sans être amoureux de moi, m'accepte tel que je suis et ne demande qu'à trouver dans sa femme une inférieure à protéger ? Songe à la difficulté, à la responsabilité du rôle que ton inégal enthousiasme m'attribue. À travers ton prisme magique, je suis trop. À travers ta prunelle désillée et fatiguée, je suis trop peu. Tu fais de moi un ange de lumière, un pur esprit, et je ne suis pourtant qu'une bonne petite personne sans prétention. Réfléchis. Je serais malheureuse de passer toujours avec toi de l'empirer à la cuisine. N'y a-t-il pas une limite possible entre ces deux extrêmes ? Laura, répondis-je, Tu parles avec ton cœur et ta raison, et je sens que tu es à cette limite entre le ciel de l'amour idéal et le respect de la réalité qui fait la vertu et le dévouement de tous les jours. J'ai été fou de scinder ta chère et généreuse individualité, ton moi honnête, aimant et pur. Pardonne-moi, j'ai été malade, j'ai écrit mes rêves et je les ai pris au sérieux. Au fond, je n'en étais peut-être pas absolument dupe, car au milieu de mes plus fantasques excursions, je te sentais toujours près de moi. Renonce à Walter, je le veux, car je sais qu'en t'estimant, il ne t'apprécie pas tout ce que tu vaux. Tu mérites d'être adoré, et je prétends m'habituer à te voir à la fois dans le prisme enchanté et dans la vie réelle sans que l'un fasse pâlir l'autre. En parlant ainsi, je me levai et je vis se dissiper la vision du monde souterrain. Devant moi, par la porte ouverte du pavillon que j'habite à Fischhausen, s'ouvrait le beau jardin botanique, inondé du soleil de juin. Une fauvette chantait dans un syringa grandiflora, et le bouvreuil favori de ma cousine vint se poser sur mon épaule. Avant de franchir la porte du pavillon, je jetai derrière moi un regard étonné et craintif. Je vis l'abîme se remplir de ténèbres. La lumière électrique s'éteignait. Les gemmes colossales ne jetaient plus que quelques étincelles rougeâtres dans l'obscurité, et je vis ramper quelque chose d'informe et de sanglant qui me parut être le corps mutilé de Nasias, essayant de rassembler ses membres épars et d'étendre vers moi pour me retenir une main livide, détachée de son bras. Laura passa sur mon front, baignée d'une sueur froide, son mouchoir parfumé qui me rendit la vie et me donna la force de la suivre. En traversant le jardin, je me sentis aussi ingambe et aussi reposé que si je n'eusse pas fait 8 ou 10 000 lieues depuis la veille. Laura me fit entrer dans le salon de l'oncle Tungstenius, où je fus reçu à bras ouverts par un bon gros homme rubicond, ventru et de la plus bienveillante figure. « Embrasse donc mon père, » me dit Laura, « et demande-lui ma main. »« Ton père, » m'écriai-je hors de moi, « c'est donc là le véritable Nasias ?»« Nasias, » dit le gros homme en riant, « est-ce un compliment ou une métaphore ? Je ne suis pas érudit, je t'en avertis, mon cher neveu. » Mais je suis un brave homme. J'ai fait honnêtement mon petit commerce ambulant d'horlogerie, de joaillerie et d'orfèvrerie. J'y ai gagné de quoi établir ma fille et lui donner le mari qu'elle aime. Je vais me fixer dans la maison de campagne où vous avez été élevés ensemble et où vous viendrez me voir le plus souvent que vous pourrez, et tous les ans j'espère, aux vacances. Aime-moi un peu, aime beaucoup ma fille et appelle-moi Papa Christophe, puisque c'est mon unique et véritable nom. Il est moins sonore que celui de Nasias, peut-être. Mais je ne te cache pas que je l'aime mieux, je ne sais pas pourquoi. Je serrai donc dans mes bras cet homme excellent qui m'acceptait pour gendre, jeune, pauvre, encore sans état, et dans l'élan de ma reconnaissance, je songeais à lui offrir un diamant gros comme mes deux poings qu'avant de quitter l'abîme polaire j'avais machinalement détaché du roc et mis dans ma poche. Ce diamant d'une grosseur insignifiante, eu égard aux proportions du gisement, représentait dans le monde où nous vivions un échantillon sans pareil et une fortune sans rivale. J'étais si ému que je ne pouvais parler, mais je tirai ce trésor de ma poche et le plaçai dans les mains de mon oncle en les serrant avec les miennes, pour lui faire comprendre que j'entendais tout partager avec lui sans compter. « Qu'est-ce que cela ? » dit-il. Et, comme il ouvrait les mains, je reconnus en rougissant que c'était la boule de cristal taillée, placée comme ornement au bout de la rampe d'escalier de mon pavillon. « Ne le croyez pas fou, » dit Laura à son père. « Ceci est une abjuration symbolique et solennelle de certaines fantaisies qu'il veut bien me sacrifier. » En parlant ainsi, la généreuse Laura prit le cristal et le brisa en 1000 pièces contre l'appui extérieur de la croisée. Je la regardai et je vis qu'elle m'examinait avec une certaine inquiétude. « Laura, » m'écriai-je en la pressant sur mon cœur, « le charme funeste est détruit. Il n'y a plus de cristal entre nous et le véritable attrait commence. Je te vois plus belle que je ne t'ai jamais vue en rêve, et je sens que c'est avec tout mon être que je t'aime désormais. » Mon oncle Tungstenius et Walter vinrent bientôt me féliciter du choix que Laura, au moment d'être engagée avec un autre, avait bien voulu faire de moi. J'appris d'eux que, la veille, mon chagrin avait décidé ma cousine à se prononcer et que, dès les premiers mots, elle avait dit à son père sa préférence pour moi. À peine arrivé, le bonhomme Christophe, rencontré effectivement par moi dans la galerie minéralogique, mais si étrangement travesti en perçant dans mon imagination, avait été mis au courant de nos secrets de cœur. Ignorant ce qui se passait entre Laura et lui, je m'étais retiré fort troublé dans ma chambre où, après avoir vainement essayé de me calmer en lisant alternativement un conte des 1001 nuits et la relation du voyage de Cannes dans les mers polaires, j'avais écrit sous l'influence du délire pendant plusieurs heures. Dans la matinée où Walter et Laura, inquiets de la manière dont je les avais quittés la veille et de ma lumière qui brûlait encore, étaient venus alternativement et tous deux ensemble m'appeler et me regarder à travers ma porte vitrée qu'ils s'étaient décidés enfin à enfoncer au moment où j'entendis Nasias s'abîmer dans le lac de verre volcanique avec un bruit si étrange et si réel. Walter, n'étant nullement jaloux de l'affection de Laura pour moi, m'avait laissé seul avec elle, et elle avait réussi à m'arracher doucement à l'hallucination. En rentrant dans ma chambre, je vis effectivement sur mon bureau un amas de feuilles volantes, griffonnées en tous sens et fort peu lisibles. J'ai réussi à les remettre en ordre et, m'efforçant autant que ma mémoire me l'a permis d'en remplir ou d'en expliquer les lacunes, j'en ai fait hommage à ma chère femme, qui les relit quelquefois avec plaisir, excusant mes extravagances passées en faveur de ma fidélité à son image que j'avais gardée sereine et pure jusque dans mes rêves. Marié depuis 2 ans, je n'ai pas cessé de m'instruire et j'ai appris à parler. Je suis professeur de géologie en remplacement de mon oncle Tungstenius, dont le bégaiement s'est à ce point aggravé qu'il a renoncé à son enseignement oral et m'a obtenu sa survivance. Aux vacances, nous ne manquons pas d'aller avec lui et Walter rejoindre l'oncle Christophe à la campagne. Là, au milieu des fleurs qu'elle aime passionnément, Laura, devenue botaniste, me demande quelquefois en riant des détails sur la flore de l'île polaire, mais elle ne me fait plus la guerre sur mon amour pour le cristal, puisque j'ai appris à l'y voir telle qu'elle est, telle que désormais je la vois toujours. Ici, Monsieur Hartz ferma son manuscrit et il ajouta verbalement. Vous me demanderez peut-être comment, de professeur de géologie, je suis devenu marchand de cailloux. Cela peut se résumer en quelques mots. Le duc régnant de Fischhausen, qui aimait et protégeait la science, trouva un beau matin que la plus belle science était l'art de tuer les animaux. Ses favoris lui persuadèrent que, pour être un grand prince, un souverain véritable, il fallait dépenser la meilleure part de son revenu en prouesses cinégénétiques. Dès lors, la géologie, l'anatomie comparée, la physique et la chimie furent reléguées à l'arrière-plan, et les pauvres savants eurent des appointements si minces et des encouragements si décourageants qu'il nous devint impossible de nourrir nos familles. Ma chère Laura, à qui je compte vous présenter tout à l'heure, m'ayant donné plusieurs enfants et mon beau-père m'engageant à ne pas les laisser mourir de faim, j'ai dû quitter la docte ville de Fischhausen, désormais retentissante des instructives fanfares de la chasse et des salutaires clameurs des chiens courants. Je suis venu m'établir ici, où, grâce au bon papa Christophe, j'ai pu acquérir le fonds que j'exploite et me livrer à un commerce assez lucratif, sans renoncer à des études et à des préoccupations qui me sont toujours chères. Vous voyez donc en moi un homme qui a heureusement doublé le cap des illusions et qui ne se laissera plus prendre au prestige de sa fantaisie, mais qui n'est pas trop fâché d'avoir traversé cette phase délirante où l'imagination ne connaît pas d'entrave et où le sens poétique réchauffe en nous l'aridité des calculs et l'effroi glacial des vaines hypothèses. J'eus le plaisir de dîner avec la divine Laura du bon Monsieur Hartz. Elle n'avait plus rien de transparent dans sa personne. C'était une ronde matrone, entourée de fort beaux enfants devenus son unique coquetterie. Mais elle était fort intelligente. Elle avait voulu s'instruire pour ne pas trop déchoir du cristal où son mari l'avait placée. Et, quand elle parlait, il y avait dans son œil bleu un certain éclat de saphir qui avait beaucoup de charme et même un peu de magie. Fin de la section 4.
Section 5 de Laura. Voyages et impressions. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Laura. Voyages et impressions par George Sand. Section 5. Les charmettes. Première partie. Un excellent ami que j'ai perdu m'avait fait autrefois en quelques lignes la description des charmettes. Ces lignes, et ma réponse à ce fragment de sa lettre, ont été publiées il y a déjà longtemps. Je n'ai pas la fatuité de croire que l'on s'en souvienne. Aussi résumerai-je en peu de mots les réflexions du malgache et les miennes. « Que de douces et tristes pensées, me disait mon ami, en revenant des charmettes, évoque la vue de ses chaumières. Leur histoire est celle de nos plus beaux jours. « Oui, sans doute, lui répondais-je. Rousseau nous a fait vivre de sa vie à l'âge où nous étions poètes et où nous ne raisonnions pas. Nous lui passions tout, nous l'aimions en dépit de tout. L'aimons-nous encore ? Après avoir posé cette question à mon ami, je me hâtai de répondre. Oui. Quant à moi, je lui reste fidèle. Et j'aurais pu ajouter fidèle comme au père qui m'a engendré, car s'il ne m'a pas légué son génie, il m'a transmis, comme à tous les artistes de mon temps, l'amour de la nature, l'enthousiasme du vrai, le mépris de la vie factice et le dégoût des vanités du monde. N'est-ce pas là le seul bonheur que l'homme puisse réaliser par le seul fait de sa volonté? Et n'est-ce pas là le bienfait inappréciable que nous devons à Rousseau? Que d'autres, après lui, soient venus chanter magnifiquement les charmes de la campagne, les beautés de la création et les délices de la rêverie. Il n'en est pas moins vrai que le premier, après des siècles d'oubli et d'ingratitude, il ramena l'homme au sentiment du vrai et au culte de la simplicité. La littérature, qui est l'expression de la vie intellectuelle des masses, était devenue pompeuse ou maniérée. Il la fit sincère et sublime. Les plus vigoureux génies, comme les plus doux talents de notre époque, auraient beau le nier, ils lui doivent leur principale initiation. Quant à ceux qui se contentent d'aimer et de goûter les lettres, pour peu qu'ils se soient sentis vivre, ils lui doivent la notion de la vraie beauté des choses de Dieu, et, par l'effet du prodige, d'éternelle fécondité qui caractérise le génie. Rousseau étendra à jamais son influence, même sur ceux qui ne l'auront pas lu, puisque tout ce qui a été écrit après lui sur la nature n'est qu'un reflet plus ou moins modifié de son rayonnement. 20 ans après avoir pensé ainsi sur Rousseau, pensant toujours de même et ne sentant pas faiblir la plénitude de ma reconnaissance, j'ai voulu, moi aussi, voir les Charmettes. Entre plusieurs raisons qui, de Toulon, me faisaient revenir à Nohant par Chambéry, ce qui n'est pas précisément la route, le désir de faire mon pèlerinage à cette illustre maisonnette avait posé beaucoup dans ma résolution. Et pourtant, j'approchais du sanctuaire avec un peu de souci. Je ne savais pas si je retrouverais là ce que j'y venais chercher, et si la vue des choses ne trahirait pas l'idée que je m'en étais faite. Mais cette crainte se dissipa pendant que la voiture montait au pas ce ravissant chemin ombragé, si bien décrit par Jean-Jacques, et semblable à ce qu'il était de son temps. Peut-être est-il mieux entretenu et plus fréquenté. Peut-être beaucoup d'arbres qui paraissaient vieux ont-ils déjà été renouvelés, car dans les plis frais et fertiles de la vallée de Chambéry, les arbres poussent avec une vigueur étonnante. Et nulle part je n'en ai vu de si sains, de si beaux, et en si grande quantité. Mais ce qui n'a pas changé, c'est le soudain mouvement de la colline qu'il faut gravir. C'est le ruisseau dont on remonte le cours. Ce sont les beaux herbages et les fleurs printanières qui tapissent ses rives. C'est le caractère doucement mystérieux de cette région couverte et enfermée qui semble inviter au plaisir de la rêverie et au charme de l'intimité. Enfin, on arrive à mi-côte du vallon des Charmettes, car ce n'est pas seulement la maison habitée par Madame de Varins qui s'appelle ainsi, c'est tout le pays environnant. Et, du chemin rapide, on gagne la maisonnette par une courte pelouse plus rapide encore. Cet ermitage a été souvent décrit depuis Jean-Jacques, et pourtant je tenais à me le décrire à moi-même, car je voulais emporter des moindres détails, un de ces souvenirs précis et complets qui nous permettent de posséder certaines localités comme nous possédons notre propre demeure. N'est-il pas agréable de retourner de temps en temps, faire certaines promenades imaginaires, et, quand on se déplaît quelque part, de pouvoir aller par exemple passer en rêve quelques heures aux Charmettes? Il y aurait lieu à une étude physiologique, psychologique par conséquent, sur cette faculté précieuse qui nous est donnée à tous de rattacher à certains objets, même involontairement, la vision nette et la sensation intime de certains moments écoulés. Je n'ai jamais vu voler le papillon Thaïs, sans revoir le lac Némi. Je n'ai jamais regardé certaines mousses dans mon herbier, sans me retrouver sous l'ombre épaisse des yeuses de Frascati. Une petite pierre me fait revoir toute la montagne d'où je l'ai rapportée, et la revoir avec ses moindres détails du haut en bas. L'odeur du liseron vrille fait apparaître devant moi un terrible paysage d'Espagne, dont je ne sais ni le nom ni l'emplacement, mais où j'ai passé avec ma mère à l'âge de 4 ans. Ce phénomène de vision rétrospective ne m'est point particulier que je sache, mais il me frappe toujours comme une force d'évocation mystérieuse qu'aucun de nous ne saurait expliquer. Qu'est-ce que donc le passé, si nous pouvons le reconstituer avec une précision si entière et ressaisir avec son image les sensations de froid, de chaud, de plaisir, d'effroi ou de surprise que nous y avons subies? Nous pouvons presque nous vanter d'emporter avec nous un site que nous traversons, où nos pas ne nous ramèneront jamais, mais qui nous plaît et dont nous avons résolu de ne jamais nous dessaisir. Si nous ramassons là une fleur, un caillou, un brin de toison pris au buisson du chemin, cet objet insignifiant aura la magie d'évoquer le tableau qui nous a charmés, une magie plus forte que notre mémoire, car il nous retrace instantanément et à de grandes distances de temps un monde redevenu vague dans nos souvenirs. L'esprit ne se perd-il pas à chercher la raison de ce petit prodige? N'est-elle pas dans cette relation à la fois spiritualiste et panthéistique qui fait que nous appartenons à la nature tout autant qu'elle nous appartient? Le phénomène est bien plus frappant encore si l'objet, devenu talisman sympathique, nous retrace une personne aimée. Morte ou vivante, elle nous apparaît sans qu'il soit besoin de croire à la comparution fantastique du spectre. C'est ici surtout qu'il est évident que, jusqu'à un certain point, les autres sont nous et que nous sommes les autres, et que toutes les choses de ce monde sont nous aussi, nos cœurs, nos pensées, nos aspirations, nos organes. Les charmettes sont donc bien à moi à présent, avec cet agrément que d'autres en ont le soin et la responsabilité, et avec la certitude que l'on tient à les conserver telles qu'elles sont. Je sais dans quelle allée du jardin je trouverai les plantes que j'ai rapportées. Je connais celles des terrains environnants. Je sais les pierres du chemin. J'ai dans le cerveau la maison photographiée. Je connais le dessin des dessus de porte du salon et les notes que chantent encore l'épinette. Mais de quoi me servirait d'avoir fait grande attention à tout si je n'avais pas été ému par ce je ne sais quoi qui ne s'emporte pas matériellement et qui seul donne de la valeur et de la vie aux choses emportées. C'était le 31 mai 1861, par une chaleur tropicale. La Savoie était un bouquet. Toutes les neiges avaient fondu autour de Chambéry. Ce pays et ce moment de l'année sont si beaux par eux-mêmes que, malgré moi, en touchant au but du pèlerinage, j'avais oublié Jean-Jacques, et jouissant du monde extérieur pour mon propre compte, je ne me demandais plus trop où j'allais ni où j'étais. Mais dès que la porte de la maisonnette s'ouvrit, je ne sais quelle odeur humide m'a reporté vers le passé, comme si, entre ce passé et moi, le lieu était resté vide, muet et fermé. Il n'en est point ainsi, pourtant, chaque jour ce lieu est ouvert au soleil et visité par quelques voyageurs. Mais par hasard, je m'y suis trouvé seul. On a tiré devant moi une grosse clé qui a crié mélancoliquement dans la serrure, et on a poussé à la hâte les volets. J'ai eu l'illusion de la conquête, et j'ai senti un frisson comme celui que doit éprouver l'antiquaire entrant le premier dans un hypogée nouvellement découvert. Cette odeur un peu sépulcrale était aussi celle de la touchante pauvreté. Il m'a semblé respirer l'air que savourait la petite colonie des Charmettes, dans cette maison où l'on venait économiser et que l'on retrouvait au printemps imprégnée des mélancoliques senteurs de l'abandon. Les deux chambres dont se compose le rez-de-chaussée ont un caractère tel qu'il est facile de voir combien elles sont vierges de tout changement. Elles sont peintes à fresque et simulent une décoration architecturale des plus simples. Fond nankin, encadrement rose, balustre gris à milieu jaune, avec les plafonds à solives peintes en gris et les lambris granités en rose pâle. L'effet général, encore assez frais, est sérieux et doux. Le dessin linéaire n'est pas d'un mauvais style. Les portes composées de morceaux grossièrement rapportés et reliés inégalement par des traverses en relief, avec des ferrures massives, sont d'une ancienneté incontestable. Un grand bahut en chêne noir, une petite table en marqueterie, la même qui a servi aux études passionnées de Rousseau, on se rappelle qu'à cette époque il perdit beaucoup de temps et se rendit malade à vouloir devenir fort aux échecs. Deux tableaux et le petit piano appelé alors épinette. Voilà ce qui reste du mobilier dépendant de la maison louée à Madame de Varins par M. Noéret. Les deux tableaux qui nous montrent Madame de Varins en armide et en omphale, et qui sont beaucoup plus anciens qu'elle, m'avaient frappé pourtant. Je me demandais s'ils représentaient quelque aïeul de l'ami de Jean-Jacques, et si je devais chercher quelque lointaine ressemblance avec elle. M. Arsène Houssay nous donne aujourd'hui le mot de l'énigme, car c'est bien la ressemblance de Madame de Varins elle-même. C'est le hasard qui a fait ce tableau, l'omphale, le portrait de Madame de Varins. Un de ses amis le lui apporta un jour en lui disant « Vous reconnaissez-vous ? » C'était une toile déjà ancienne, dans la manière du Ricci, achetée à Turin et offerte à la belle baronne. J'en dirais autant d'une toile plus petite peinte à l'école du Castiglione. C'est encore d'un peu loin le portrait de Madame de Varins, mais toujours par rencontre. Ces deux tableaux qui sont restés là lui ont donc bien appartenu personnellement. Les y a-t-elle laissés pour acquitter une fin de bail? C'est fort probable. Comme souvenir, ils sont donc d'un grand prix, et on doit estime et respect au propriétaire des Charmettes, qui n'a pas voulu s'en dessaisir. L'omphale est fort belle, et la peinture n'est pas mauvaise. Mais Madame de Varins était blonde, et celle-ci est brune. N'importe. Cette belle tête sourit, et son regard éclaire encore les Charmettes comme un rayon du passé. Cette première pièce, assez vaste, était la cuisine où l'on mangeait et où l'on préparait sans doute les fameux élixirs. Le petit salon où l'on passe immédiatement est aussi pauvre que le reste, et il est charmant. On ne sait pourquoi. Est-ce parce qu'il est un sanctuaire particulier où, après les soins de la journée, le travail et la promenade, on se reposait dans une causerie plus intime et plus sérieuse? Là, sans doute, l'ami de Jean-Jacques ne s'occupait que de lui, de son avenir, de ses études, de ses projets, de ses idées. Aucun nouveau venu ne profanait le charme de leurs entretiens. Là, sans doute, assis le soir sur les marches qui descendent au jardin, il savourait le bonheur poétique que Rousseau a si noblement et si purement décrit. Le souvenir des allants et venants me gâte un peu la grande pièce. Le petit salon me représente mieux les jours que Rousseau a si bien racontés. Je croyais retrouver le passage de ses yeux rêveurs sur les moindres détails de la muraille. Mais je l'ai surtout cherché avec émotion, cette trace, cette lueur magique, dont la suave et fière nature qui entourait l'ermitage, dans le coteau ombragé, dans le hardi profil du nivolet qui se découpait sur le ciel brillant et pur. Il n'a su décrire que beaucoup plus tard, mais certes il sentait déjà profondément. Il voyait ces tableaux enchanteurs dont il a dit depuis. Je revenais, en me promenant, par un assez grand tour, occupé à considérer avec intérêt et volupté ces objets champêtres dont j'étais environné, mais seuls dont l'œil et le cœur ne se lassent jamais. Baignons-nous donc ici, artistes que nous sommes, dans ce communisme de la pensée que les lois sociales ne poursuivent ni ne créent, parce que c'est une loi humaine hors de toute atteinte et de toute discussion. La beauté des choses, d'un prix plus rare que leur utilité, est notre propriété à tous. Elle était ici avant Rousseau, elle y est encore après lui. Il s'est rempli d'elle, et à son tour, il l'a remplie de lui. C'est ici que son âme habite encore en même temps qu'elle habite ailleurs. C'est ici qu'elle nous parle et nous entend. J'ai parcouru dans tous les sens le jardin, la vigne et tout l'enclos jeté en pente au-dessus et au-dessous de la maison. Une longue treille, renouvelée probablement, soutient du moins les mêmes pampres qui ont couvert de leur ombre le géant de l'avenir, alors si profondément ignoré du monde et de lui-même. Le lierre qui tapisse le pied des murs de la terrasse, les capillaires qui croissent dans le pavé disjoint du perron, sont les mêmes qu'il l'a foulé. Là où ces plantes fixent leurs racines, elles vivent des siècles, et la maison était déjà vieille et probablement un peu décrépite quand Rousseau l'habita. La pervenche y était aussi installée, la même pervenche que lui fit observer Madame de Varins pour la première fois, vit toujours, le long des chemins et dans toutes les haies de l'enclos.
Les buissons taillés du petit parterre peuvent avoir été plantés par lui. Leur souche de charmille est si vieille et leur pousse si drue qu'on se sert de ces haies comme de bancs. D'ailleurs, pour qui connaît la persistance des plantes annuelles dans certains terrains, il n'y a pas là un brin d'herbe qui ne puisse être en quelque sorte le témoin de ces jours évanouis. Ils eurent une grande importance dans la vie de Rousseau, ces étés des Charmettes. Il y connut son premier bonheur, non dans les bras de cette excellente femme qui fut beaucoup trop la femme de son temps et de son milieu d'aventurier, mais dans les bras de la nature toujours sainte qui purifie ses vrais amants de toute souillure et les rachète de toute erreur. C'est là que le pauvre petit bohémien fut initié à la douceur de cette vie de travail paisible et d'intimité domestique qui fut dès lors l'aspiration et la recherche de toute sa vie, son idéal toujours entier, jamais savouré, enfin son rêve rétrospectif empoisonné par les amertumes de la réalité. Il m'eût été doux de passer la journée seule dans cet ermitage avec les amis qui étaient venus m'y rejoindre. Mais ils s'éloignèrent tandis que j'herborisais. Et d'autres curieux arrivèrent. Je les évitais, ils partirent bientôt. Un seul resta et vint à moi. Je le connaissais depuis peu. C'était monsieur, un catholique homme de bien, gourmé dans ses principes malgré des vertus instinctives et naturelles qui doivent le faire considérer, mais qu'on invoque vainement quand ses préventions parlent. J'eusse mieux aimé ne pas le rencontrer là, car il me jeta forcément dans la discussion. C'était une fatalité devant laquelle je ne pouvais ni ne devais reculer. J'avais pourtant fait de mon mieux pour ne pas aborder le sujet brûlant, mais, comme il feuilletait un de ces livrets où les voyageurs écrivent leurs noms et leurs pensées, je regardais que son honnête sourire devenait méchant et qu'une joie cruelle faisait briller ses yeux paisibles. « Ces pages sont, lui dis-je, pleines d'injures grossières ou de blâmes stupides contre Rousseau. Je les ai parcourues avec dégoût, après avoir écrit moi-même quelques lignes sur la dernière page. Et vous pouvez voir que j'ai effacé ces lignes, trouvant que mon hommage était sali par le contact de ces écritures. J'aurais dû même effacer mon nom, ce n'est point sur ce carnet malpropre qu'il faut s'inscrire dans la demeure de Rousseau. « Voilà précisément, répondit monsieur, l'incident qui me faisait sourire. J'admire votre enthousiasme pour monsieur Rousseau, mais je ne le partage pas. Je le sais du reste. Ne parlons pas de lui, voulez-vous ? Pourquoi donc ? Parlons-en avec bonne foi. Vous le jugez avec votre générosité plus qu'avec votre raison. Mais souffrez que ma générosité, à moi aussi, se redresse contre lui, et que je défende ma conviction des charmes de votre magicien. Vous me direz en vain qu'il est le plus éloquent des hommes. Je vous répondrai qu'il en est le plus pervers. Il est pour moi ce spectre que les anciens appelaient Ampus, et qu'il faisait errer autour du Styx avec une jambe d'airain et l'autre de fumier. Il prenait continuellement une forme nouvelle, et jamais deux personnes qui le regardaient en même temps ne le voyaient sous la même figure. C'était l'emblème de l'imagination déréglée qui ne saurait s'arrêter à aucune croyance et qui d'un pied infernal traverse impunément la braise, tandis que de son autre pied misérable, elle épouse irrésistiblement la fange. Je vois bien que ma dureté vous fâche, mais permettez-moi d'invoquer un de vos principes, la démocratie des idées. Si peu de choses que je sois, j'ai le droit et peut-être le devoir de juger au nom de la vérité les plus grands et les plus illustres des hommes. « Oui, repris-je, quand ces illustres se survivent dans l'insolence d'un triomphe illégitime ou contestable, mais lorsque, durant leur vie et longtemps après leur mort, ils sont poursuivis par des haines aveugles, d'âcres rancunes et des insultes lâches, on doit éprouver le besoin d'accorder à leur tombe la part de respect ému et de pitié sainte qui leur a été si cruellement déniée. Et vous-même, vous souriez de plaisir devant les pages de ce livret. Elles vous amusent donc, ces railleries obscènes, ces malédictions de Tartuffe ou ces réprimandes de cuistre. Et pourtant, quel homme il faudrait être pour se permettre de jeter la pierre à un tel pécheur? Jésus ne l'eût pas fait. Il y a quelques centaines de crétins qui, chaque année, viennent déposer ces ordures dans la maison des Charmettes. N'est-ce pas là une révélation de cette existence atroce qui avait été faite à Rousseau, et dont on ne lui a même pas accordé le droit de se plaindre? N'a-t-on pas dit 100 fois que cette prétendue persécution était un rêve de son orgueil froissé, qu'il n'eût tenu qu'à lui d'avoir d'excellents amis et une vie paisible, que la lapidation de Moutier Travers était une hallucination complète? Les preuves existent pourtant. Vous n'ignorez pas qu'elles ont été recherchées et trouvées, mais admettons qu'elles n'existent pas, et accordez-moi que l'équivalent est ici sous nos yeux. Supposez que Rousseau nous apparaisse là, revenant de la prière du matin qu'il faisait à travers champs, avec ses 24 ans, sa maladie de langueur, la piété sincère et la résignation philosophique qui le caractérisaient à cette époque. Montrez-lui ce torrent d'injures et dites-lui « Voilà ce qu'on écrira ici, au XIXe siècle, et ce que des centaines de pèlerins signeront sans sourciller dans ton oasis. Et moi, je trouve cela charmant. » Pensez-vous que, devant de tels outrages, sa raison ne se fût pas ébranlée et son cœur à jamais aigri? Eh bien, ce sont là des pierres de Moutier Travers qui l'ont poursuivi dès le jour où il a été célèbre. Voilà les insultes des passants. Voilà les calomnies atroces dont il fut l'objet. Voilà le vrai et le rêvé de sa douleur. Voilà les chiens lancés contre lui pour le faire tomber, sanglant et meurtri sur le pavé. Voilà le haro d'une cabale hypocrite et lâche, résolue à le rendre fou et furieuse de n'avoir pu le rendre vil ou méchant. Cette grande cabale n'est pas morte, vous le voyez bien. Elle travaille toujours contre celui que Dieu avait purifié, retrempé et absous. « Mais je ne sais pas où vous voyez tant d'injures, » reprit monsieur. « Railleur, il y a dans ces livrets une foule d'hommages rendus par des ouvriers démocrates et socialistes, qui s'expriment mal et qui ont pourtant bien fait de protester. Mais, à voir combien ces gens-là savent peu dire ce qu'ils sentent, il est évident que le jour est encore loin où Rousseau sera fortement et utilement défendu par eux. Le voilà, 100 ans après l'apparition de ses plus beaux écrits, à peu près inconnu aux masses et vilipendé par la plupart des gens qui l'ont lu. Eh bien, cela me révolte, et j'éprouve le besoin de crier à la première personne que je rencontrerai ici. Ôtez votre chapeau, essuyez vos pieds, et n'ajoutez pas un mot à votre signature. Vous n'êtes ici ni à Ferney, ni à Coppet. Le carnet ne vous est pas présenté par des laquais en poudre et en livrée. Vous êtes dans une chaumière, et une pauvre femme vous présente une espèce de livre de cuisine où chacun se croit permis de déposer des outrages ou des gaudrioles. Pourquoi ? Parce que Jean-Jacques se survit dans sa pauvreté, et que la pauvreté est généralement méprisée, et souvent par le pauvre lui-même. Ah ! C'est que la pauvreté n'est pas vertu pour tout le monde. Elle le fut pour lui, qui, le premier parmi les gens de lettres sortis de la plèbe, ne voulut être valet d'aucun grand seigneur, le courtisan d'aucun prince. Possédé d'un véritable amour de la liberté, il ne voulut pas être l'amusement des oisifs et l'esclave du monde. Il ne voulut flatter aucun pouvoir, et il osa braver les prêtres, avec lesquels Voltaire savait jouer au plus fin. Voilà son grand crime. Allez ! Soumis au clergé, il eût pu être plus coupable qu'il ne l'a été, et le clergé béatifierait aujourd'hui l'homme de talent dévoué à sa cause. N'avez-vous pas des défenseurs de l'Église bien autrement violents que Rousseau ? Ces saints-là n'attaquent-ils pas les personnes ? N'entrent-ils pas l'injure et la calomnie à la bouche, dans la vie privée ? S'ils n'ont pas l'esprit de Voltaire, ils en ont le cynisme. Et s'ils n'ont pas le génie de Jean-Jacques, ils en ont la colère. Mais ils sont orthodoxes, à ce qu'on dit, chrétiens bien que dénonciateurs, serviteurs du Christ bien que furieux, vindicatifs et dévorés de haine. Le scepticisme du jour en rit, l'égoïsme les redoute, la couardise les ménage. L'Église les bénit et les protège, le pape les embrasse. Qui oserait écrire d'eux ce que tous les jours ils écrivent de Rousseau, de Molière et des plus grands hommes? Aussi grandissent-ils en impunité comme en impudence. Et tandis que le monde retentit de leurs déclamations épileptiques, les petits cuistres dont la peur a fait leurs affiliés honteux poursuivent les grands hommes jusque dans la chaumière où ils ont vécu quelques jours. S'ils l'osaient, ils déterreraient leurs ossements pour les traîner aux gémonies. Et voilà ce que l'on appelle le retour à la croyance, le triomphe de la religion. « Je ne vous sais pas mauvais gré de votre emportement, » répondit monsieur. Parce que je n'ai garde de défendre les insulteurs de profession qui se vantent d'être bénis et embrassés par le pape. Le pape ne les lit pas, ou bien, dans le trouble de sa situation, il ne distingue pas toujours ceux qui servent l'Église de ceux qui la compromettent. Ne vous en prenez pas à l'Église de ces misères de détails. Le pape n'est pas infaillible dans les choses de la vie privée. Ce serait même une monstrueuse hérésie que de le croire tel quand il agit comme homme sujet à l'erreur. Je ne défends pas davantage ceux qui viennent ici pour cracher sur une tombe. Je ne suivrai certainement pas leur exemple. Mais laissez-moi vous dire que Jean-Jacques Rousseau fut une erreur de la nature, et que je ne respecte en lui que ses malheurs. Je respecte de même, et ni plus ni moins, la besace du pauvre et les plaies du blessé. Je ne puis injurier ni mépriser les misérables, et je ne leur demande pas s'ils le sont par leur faute. Mais n'exigez pas qu'en leur tendant une main secourable, je baise au front la lèpre de leur péché. Rousseau, doué d'un si beau génie, était l'homme le plus faible et le plus infirme d'esprit qu'il y eût. Souillé d'instincts honteux et de fautes méprisables que l'on eût bien pu ignorer, il a rendu hommage aux besoins de la confession en prenant le monde pour confesseur. Le monde l'a trahi, car le monde est sans pitié et sans entrailles. L'Église n'a donc point à détester et à maudire ce pécheur dont l'opinion a fait prompte et cruelle justice. Elle voit en lui un malheureux insensé qui proclame la gloire de Dieu en dépit de lui-même. Oui, cet homme qui cherche Dieu sans pouvoir le trouver, ce pénitent qui dédaigne et repousse le prêtre, mais qui, perdu de honte et de remords, se confesse à l'univers et meurt désespéré en voyant que l'univers le condamne, est un trophée que met à nos pieds la philosophie. Qu'eût-il fallu pour sauver ce grand esprit abandonné à la dérive? Un ami, un confesseur, qui le réconciliait avec lui-même, en lui inspirant le véritable repentir. Ah! Que l'expiation eût été plus douce, seule à seule au pied du Christ, avec ce prêtre priant et pleurant avec lui. Comme cela eût été simple, édifiant et facile, au prix de cet aveu public qui l'a plongé dans une éternelle honte et dans les atroces douleurs qui conduisent au suicide. Oui, je dirai avec vous, pauvre Jean-Jacques, je le plains réellement, ne me demandez pas de l'aimer, il a trop d'orgueil, et ce n'est même pas de l'orgueil, c'est de la vanité. Il eût été peut-être consenti à revenir à la véritable Église et à plier les genoux devant un prêtre, s'il eût compris que ce médecin de l'âme avait la puissance de le guérir. Mais qu'eût dit ce monde de libertins et d'athées que Rousseau feignait de mépriser et qu'il voulait éblouir par un trait d'audace inouï? Une obscure et discrète conversion eût fait rire tous ces beaux messieurs. Il fallait les étonner par un acte de courage insensé. Et que fait-il dans son délire déplorable? Il relève les pans de sa robe d'arménien, montre sa nudité honteuse et triomphe parce qu'il a fait rougir les passants. On lui jette des pierres, et il s'en étonne. On le laisse seul, et il pleure. On le blâme, il s'indigne et se tue. Voyez bien que cet homme est fou et qu'il ne peut porter aucune atteinte à la vérité religieuse. « Certes, répondis-je, il est plus commode de se confesser en secret qu'en public. Les premiers chrétiens n'en jugèrent pas ainsi pourtant. Ils se confessaient tout haut à la porte du temple. Mais, sans vouloir discuter avec vous sur les sacrements, laissez-moi vous dire que la vérité divine éclairait Rousseau plus qu'aucun prêtre catholique ou protestant de son époque. Dans ce temps où la notion de Dieu s'était entièrement noyée dans les dogmes religieux et dans les dogmes philosophiques, la profession de foi du vicaire savoyard était encore l'élan le plus spiritualiste qu'il y eut. Certes, elle ne nous satisfait pas aujourd'hui, mais elle ouvrit l'ère du retour à la foi par la raison. Passons. Ce n'est point là ce que vous voudrez admettre. Je vous dirai seulement que vous ne persuaderez jamais un esprit juste que Rousseau ait écrit sous l'empire de la démence. Non, Rousseau malade n'était pas plus fou que Napoléon n'était épileptique. Celui-ci a pu éprouver les violents phénomènes d'un mal inconnu, propre à son organisation exceptionnelle, sans que l'équilibre de ses facultés, un moment troublé, en ait été altéré. Chez Rousseau, un mal physique que la science a beaucoup événement cherché à définir et à qualifier après coup, a parfois violemment ébranlé la raison sans la détruire. Dire que Rousseau était fou, quand même il serait prouvé qu'il est mort fou et par le suicide, c'est accréditer une erreur, je dirais plus, un mensonge qui tend à neutraliser l'influence de son génie. Il a eu des accès d'exaltation maladive, comme Napoléon a eu des crises de nerfs terribles. Chez celui-ci, ces crises, provoquées par les efforts d'une volonté immense aux prises avec des événements d'une fatalité prodigieuse, n'ont peut-être pas été étrangères à son abdication, sitôt révoquée, et à ses hésitations dont l'esprit clérical de 1816 lui a fait de si monstrueux parjures. Car, soit dit en passant, si l'illustre captif de l'île d'Elbe fut revenu incognito en France à cette époque, il s'y serait vu si salement vilipendé qu'il eût peut-être pris, comme Rousseau, la société en horreur et l'humanité en dégoût. Qui sait si alors l'esprit le plus lucide et le plus puissant du siècle n'eût point été atteint et détérioré beaucoup plus que ne le fut celui de Jean-Jacques dans ces dernières années? Admettez donc que les plus grands hommes sont généralement voués à la plus terrible destinée, et qu'il n'y a point à s'étonner si la raison de plusieurs y a succombé entièrement. Le Tasse, Pascal, et tant d'autres ont réjoui le vulgaire du spectacle de leurs jours de démence, car le vulgaire aime à voir tomber les riches dans la misère, les rois dans l'exil et les grands esprits dans le désespoir. C'est par là qu'il se console de n'être ni intelligent ni puissant. Et tout échafaud, dressé pour le crime ou pour la vertu, trouve une foule qui applaudit le bourreau et insulte la victime. Pour moi, il m'importe peu que Rousseau ait exagéré la persécution dont il fut l'objet. Cette persécution exista, puisqu'elle existe encore, et qu'elle sera vive, chose bien significative à mes yeux, dans les temps de réaction et d'hypocrisie. Alors, vous excusez et pardonnez tout. Même ce qui nous a appris des choses qui se sont passées ici, aux Charmettes. Je vous demanderai d'abord si les confessions, qui n'ont été publiées qu'après la mort de Rousseau, et qui, par conséquent, ne sont pas la cause du scandale provoqué autour de lui de son vivant, comme vous le disiez tout à l'heure, étaient un livre terminé,
entièrement revu et corrigé, enfin prêt à paraître tel qu'il l'a paru. Vous dites oui ? Moi, je crois que, si Rousseau eût vécu quelques jours de plus et qu'une éclaircie de soleil se fût faite dans son âme irritée, il eût sans doute retranché de ses mémoires des détails inutiles, des plaintes injustes, des reproches exagérés. Mais admettons que je me trompe, et qu'il ait cru à l'utilité de cette publication sans retouche. Montrez-moi dans la bibliothèque de l'esprit humain une œuvre de quelque importance qui ne révèle pas les infirmités, les déviations, les entraînements, les erreurs de bonne ou de mauvaise foi des plus beaux génies. Si, comme je le crois, vous êtes un catholique réellement orthodoxe, vous en trouveriez à chaque pas dans les pères de l'Église. Et ne discutez-vous pas encore l'orthodoxie de plusieurs d'entre eux ? Dans les textes les plus sacrés, n'êtes-vous pas forcé d'interpréter pour admettre ? Vos plus grands saints n'ont-ils pas été les plus grands pécheurs avant d'être touchés par la grâce ? Et croyez-vous les insulter quand vous proclamez les vices et les crimes dont leur conversion les a rachetés à vos yeux ? Permettez-nous donc d'avoir aussi nos saints, nos martyrs, hommes et pécheurs comme les vôtres, et comme les vôtres, rachetés par la grâce divine, qui agit en eux de concert avec leur propre virtualité pour les éclairer, les purifier par conséquent. La lumière purifie. Que m'importe que Rousseau se soit trompé en plaçant son idéal dans la vie érémitique ? Vos pères du désert ne traitaient pas mieux la vie sociale. Vous lui reprochez d'avoir raconté certains faits avec cynisme ? Vous dites que son imagination dépravée s'est complue à ces tableaux révoltants ? Je vous dis, et je vous jure que non, moi, et l'horrible scène de l'hospice de Turin, où les prêtres lui surent si mauvais gré de son indignation, est une sanglante révélation de faits immondes dont il a eu le devoir de retracer la laideur, parce que ses prêtres les excusaient et les toléraient en souriant. Je vous accorde que les plus grands pécheurs peuvent devenir les plus grands saints, mais les fautes des mauvais chrétiens ne rachètent point celles des mauvais philosophes, et ceux-ci peuvent être de grands pécheurs sans devenir saints, à quelque degré que ce soit. Les fautes des mauvais chrétiens, c'est-à-dire les vices de l'hypocrisie, sont sans excuse, et vous ne pouvez pas les faire marcher de pair avec les emportements de franchise du philosophe calomnié et persécuté. Les premiers font le mal sous le manteau de la vertu, on croit en eux, on les respecte, le peuple baise leurs sandales, les femmes leur confient leurs plus intimes pensées. Leur vie est en secret une jouissance raffinée, en public un triomphe de tous les instants. Pourtant ces gens insultent et condamnent. Du haut de la chair, ils tonnent contre les idées et les personnes. Ils excommunient avec les plus hideuses formules de la malédiction. Ils dévouent les âmes à l'enfer, car leur vengeance ne s'arrête pas au seuil de la vie. Il faut l'éternité pour l'assouvir. Les tortures de l'Inquisition n'étaient rien. Il fallait bien inventer celles de l'enfer. La clémence de Dieu ne se pouvait souffrir. Voilà les mauvais chrétiens. Ils sont faciles à qualifier. Mais vous ne pouvez appeler mauvais philosophe l'homme qui, cité à toute heure de sa vie au tribunal de l'opinion publique, défend sa vie et la confesse publiquement pour obtenir une sentence équitable, pas plus que vous ne pouvez refuser à celui qui comparaît devant les tribunaux le droit de défendre son innocence. Rousseau n'était-il pas condamné et banni pour avoir écrit l'Émile ? N'était-il pas également repoussé par les protestants et forcé d'errer et de fuir comme un coupable ? Avait-il rêvé cette persécution exercée contre lui par une monarchie et une république, cet anathème lancé par les deux églises? Et quand il se retranchait contre l'intolérance dans une humble solitude, cherchant un village, une chaumière, l'oubli et le repos, les véritables mauvais philosophes, les grimes et consorts, ne publiait-ils pas contre lui des attaques plus perfides encore que celles de la gente dévote de Suisse et de France? Quel est donc ce parti pris de nier la conspiration contre Rousseau? Est-ce que les preuves n'existent pas? Est-ce que pour lui seul l'histoire ne prouve rien? Est-ce que lui seul, entre tous les hommes, était privé du droit de se disculper et de se faire connaître? Sa gloire a tellement obscurci les petites réputations de son temps que l'on connaît beaucoup plus aujourd'hui sa défense que leurs attaques. Et voilà pourquoi de bons esprits comme le vôtre se persuadent que les confessions sont un acte de vanité personnelle en réponse à des insultes imaginaires. Eh bien voilà ce que peuvent nier formellement, et les preuves en main, ceux qui ont pris la peine d'étudier la vie de Rousseau et celle de ses contemporains. S'il a raconté les fautes de Madame de Varins, c'est qu'on l'accusait d'ingratitude envers elle, et que les uns faisaient une sainte victime délaissée, les autres une prostituée hypocrite.
Il est certain que, sans les confessions, elle serait fort oubliée, peut-être inconnue aujourd'hui. Mais les vivants ne se rendent pas un compte exact des chances que courront leur mémoire et celle de leurs amis ou ennemis dans l'avenir. Rousseau a dû se dire « Ma bienfaitrice sera méconnue à cause de moi, comme je suis calomniée à cause d'elle. Je dirai donc ce qui a été, ce qu'elle fut, ce que j'étais. Je dirai tout. Cette femme avait 1000 grandes qualités pour racheter un seul vice. Elle gagnera à mon récit tout ce que mon silence lui ferait perdre. Et ce vice même qu'il avoue, il l'atténue avec une puissance d'analyse et une recherche d'examen vraiment admirable. Il montre qu'elle n'était réellement pas vicieuse, mais plutôt folle de sang-froid. Égarée par un sophisme fort répandu à cette époque, sophisme funeste qui avait détruit en elle, comme chez tant d'autres plus haut placés, le sens moral de l'amour. Claude Annette est devenue si vague dans les souvenirs de la localité que quelques personnes ont révoqué en doute son existence. Rousseau ne pouvait prévoir que leur vide des Charmettes s'effacerait ainsi. On avait trahi tous les secrets qu'il avait confiés. Il dut penser que celui-là deviendrait la risée de ses ennemis. Il le dévoila, mais en quelques termes pénétrés d'affection et pénétrants de vérité. Comme il nous a fait aimer et respecter cette humble figure du serviteur devenu le maître de la maison par la force de son intelligence et la dignité de son caractère. Certes, dans cette étrange association, il y avait 3 coupables. Mais, comme on voit bien qu'il n'y avait qu'un corrupteur entre 2 hommes chastes et sincères, et que ce corrupteur, c'était le fatal sophisme de Madame de Varens, et comme la véritable affection de ces 2 hommes, l'un pour l'autre, est un hommage rendu à Madame de Varens elle-même, à ce qu'il y avait en elle de vertu virile, puisque son impudeur ne la leur rendait ni moins chère ni moins respectable. Ceci, d'ailleurs, se passait à l'époque la plus corrompue qui y fût jamais. Quelle délicatesse de sentiment chez Rousseau, et quelle saine appréciation de l'amour vrai dans le récit de cette honte et de cette douleur de sa jeunesse. Comme ses larmes éperdues et l'austère silence de Claude Annette protestent contre la contagion du siècle dont Madame de Varens était la proie. Tenez, nous appartenons à une époque dont les mœurs sont encore pires peut-être, mais dont les principes sont meilleurs. Eh bien, je vous réponds qu'au nombre des leçons qui ont aidé les hommes de bien à surnager sur l'abîme du mal, depuis 50 ans, le récit de Jean-Jacques est une des plus saisissantes, tant il est vrai que Jean-Jacques, à travers les plus tristes réalités de sa vie, est toujours l'apôtre le plus sincère et le plus éloquent de l'idéal. Vous plaidez avec chaleur, et vous m'obligez à vous céder sans être convaincu, parce que je ne veux pas plus que vous transporter notre discussion sur le terrain d'une controverse religieuse. Mais il est des principes qui deviennent généraux et absolus, à force d'être au-dessus de toute discussion, les devoirs de la paternité par exemple. Je suis curieux, je l'avoue, de voir comment votre philosophie discutera M. Rousseau sur ce point. « Non, monsieur, répondis-je, je ne l'essaierai pas, et nulle douleur ne m'est plus sensible que cette tâche dans la vie d'un maître que je chéris. Il n'y aurait qu'un moyen de justifier Rousseau, ce serait de nier le fait, et qui sait si ce sera toujours impossible. Le temps amène bien des révélations, et la conspiration encore si agissante et si puissante contre lui me défend de le condamner sur ce fait terrible, tant qu'elle subsistera. Qui sait s'il n'existe pas quelque part des preuves que l'on ne veut pas ou que l'on n'ose pas produire, parce qu'elle excuserait jusqu'à un certain point sa conduite? J'avoue que je ne comprends pas votre espérance. Eh bien, supposez que ces enfants mis à l'hôpital ne fussent pas les enfants de Rousseau, ou que du moins, il eut de fortes raisons pour douter de la fidélité de Thérèse. Thérèse, telle qu'il nous l'a dépeint, était une bonne créature, mais d'une faiblesse d'esprit et de caractère qui paralysait à toute heure sa conscience et son dévouement. Elle se laissait dépouiller par Madame Levasseur. Elle s'ennuyait avec lui. Elle ne le comprenait pas. Elle entretenait par sa mère des relations avec ses ennemis. Voilà ce que Rousseau avoue. Moins avec l'attention de s'en plaindre qu'avec celle d'atténuer ses torts et de la réhabiliter. Il fait évidemment pour elle ce qu'il a fait pour Madame de Varens. Mais tous les contemporains ont parlé bien autrement de Thérèse. Ils disent qu'elle a été l'instrument de son malheur, qu'elle l'a brouillé avec tous ses amis, qu'elle aimait le vin, qu'elle avait de très mauvaises mœurs, enfin que Rousseau s'est tué parce qu'il l'avait surprise avec un laquais. Il m'en coûte de les croire. Rousseau a un si grand art pour faire aimer ce qu'il défend, que je m'habituerai volontiers à voir son ange gardien dans cette garde malade, fidèle et dévouée qu'il nous montre partageant sa misère, sa vie errante et ses douleurs. Mais en ne prenant que la moitié du blâme et de l'éloge dont elle est l'objet, je ne vois rien d'impossible à ce qu'une personne si ennuyée, si peu intelligente, si mal en conseillée, d'un caractère si faible et si peu digne à beaucoup d'égards, ait eu les mœurs de madame de Varens. C'est de l'avilissement où se jetait cette dernière qu'il faut s'étonner. Quant à Thérèse, rien ne paraîtrait moins surprenant. Rousseau ne fut pas son premier amour. Qui pourrait affirmer qu'il fut le dernier? Et vous croyez que Rousseau, qui dévoilait si hardiment les turpitudes des autres pour atténuer ou pour faire accepter les siennes propres, aurait subi la réprobation générale plutôt que d'accuser Thérèse? Oui, je le crois. Deux motifs puissants pouvaient le condamner au silence. D'abord, le besoin extrême que, vieux, infirme, pauvre et abandonné, il avait des soins et de la compagnie de cette femme enfin rivée à son existence après tant de petites lâchetés commises pour le délaisser ou le dominer entièrement. Permettez-moi de vous interrompre pour vous dire que ce motif du silence de Jean-Jacques serait une plus grande lâcheté que toute celle de Thérèse. Les motifs qu'il donne à son crime sont infâmes dans la bouche d'un homme qui proclame l'amour et le culte de la vertu. Quoi? Les mauvais conseils et les mauvais propos d'une table d'hôte? L'impunité du libertinage, l'exemple des méchants esprits qu'il avait le tort de fréquenter, pouvez-vous accepter de pareilles excuses? Et tous ces raisonnements tirés de l'égoïsme ou de la couardise morale, de la crainte de manquer de pain pour nourrir ses enfants ou de caractère pour les diriger, pensez-vous qu'il y ait là de quoi autoriser l'horrible exemple qu'il ne craint pas de donner à tous les hommes qui manquent de fortune ou d'énergie?
Il y aurait alors quelque chose de plus simple à faire, ce serait de tuer, comme font les Chinois. Tous les enfants contrefaits ou qu'on n'a pas le moyen de nourrir, sous prétexte que la vie du pauvre et de l'infirme est malheureuse et que la mort est un grand bien pour ceux qui entrent dans la vie sans vigueur, sans protection et sans patrimoine. À votre tour, monsieur. Vous plaidez avec chaleur. Et moi, je ne fais pas de réserve en vous donnant raison. Si Rousseau n'a pas cru être le père des enfants de Thérèse, il a été presque aussi coupable de ne pas le dire qu'il l'eût été en les abandonnant sans cette excuse. Il devait à sa réputation, qui intéresse au plus haut point la cause de la philosophie, et par conséquent celle du genre humain, de se disculper complètement, dût Thérèse l'abandonner mourant à toutes les horreurs de la solitude. Nous arrivons donc, par un chemin imprévu, à nous entendre, vous et moi, sur le devoir qui était imposé à Rousseau de plaider sa cause à tout prix, car vous semblez reconnaître qu'un si grand talent et une gloire si haute ne devaient pas se laisser flétrir, et nous voici d'accord sur la légitimité, l'autorité et même l'utilité de ses confessions. J'ai raisonné à votre point de vue, mais que devient, je vous prie, l'autorité des confessions, si le plus grand crime reproché à votre philosophe s'y trouve faussement avoué par lui? Je vous répondrai que la justice civile et religieuse de vos pères arrachait beaucoup de faux aveux par la torture, et que la vie de Rousseau fut une torture morale sans exemple. Mais je répondrai encore mieux en invoquant un autre motif de son silence, et ce second motif, vous ne m'avez pas encore permis de l'énoncer. Je vous écoute avec attention. Eh bien, ce motif que je serais très porté à admettre, et que je préférerais infiniment, c'est la générosité de Rousseau. Ce mot vous fait sourire, parce que vous persistez à voir en lui le type de la susceptibilité, de la rancune et de la misanthropie. Je vous répondrai que le caractère de Rousseau est très compliqué, agité sans cesse par les orages intérieurs et toujours porté aux réactions extrêmes. Chaque page de ses confessions le prouve. Et, bien qu'arrangé et médité, ce livre porte la vive empreinte des entraînements de son cœur et de sa pensée. Il s'y explique lui-même avec soin. Il s'y révèle malgré lui beaucoup plus. À tout instant, on le voit se sacrifier pour les autres et céder à des enthousiasmes chevaleresques qui donnent des armes contre lui. Je vous en citerai bien des exemples, mais cette discussion a été assez longue. Et je ne veux plus qu'invoquer votre bonne foi et vous inviter à juger sans prévention les côtés saillants de son malheureux caractère. Ces côtés sont justement les deux tendances les plus opposées, l'irritabilité soupçonneuse sans trêve et la mansuétude inépuisable. Pour ne parler que de Thérèse, toute la vie de Rousseau est en même temps une méfiance d'elle, trop fondée peut-être, et une affection réelle avec tous les attendrissements de la reconnaissance. Si tous les ennemis de Jean-Jacques fussent revenus à lui tant soit peu, Je ne doute pas que, poussant l'oubli et le pardon jusqu'à l'excès, ce brutal, si sensible à la moindre marque de sollicitude ou de repentir, n'eût parlé d'eux avec enthousiasme. Il les eût fardés avec une bonne foi sans égale, comme il l'a fait pour Sophie, coquette ou infidèle, imprudente à coup sûr, et lui infligeant de cruelles souffrances ou la nécessité de se laisser accuser pour ne pas la trahir. Il ne lui reproche pourtant rien, loin de là. Il persiste à en faire un ange. Combien peu d'hommes, raillés et blâmés comme il le fut à cause d'elle, dans ce monde des beaux esprits, qui était tout dans ce temps-là, fussent restés fidèles et discrets. Dans cette mansuétude de Rousseau est tout le fond de son âme, tout ce qu'elle avait de saint et de vraiment grand, même dans le désespoir. Ce désespoir a dû être plus profond encore quand il s'est vu accusé d'être un père dénaturé. Mais pour se laver du reproche, il eût fallu dévouer Thérèse au mépris public, et Rousseau s'est sacrifié. Le terrible courage qu'il avait eu jusque-là, pour tout dire, l'a abandonné. Sa liaison avec elle était devenue plus sérieuse avec le temps. Beaucoup de soins rendus et de malheurs partagés la lui avaient rendue chère, respectable jusqu'à un certain point. Peut-être aussi, croyant l'avoir purifiée par ses enseignements et le partage de ses épreuves, frémissait-il à l'idée de s'être trompé autrefois sur son compte. Peut-être en est-il venu à se dire « Ces enfants que j'aimais connus étaient les miens ». De là des remords et des regrets qu'il avoue. Et s'il est vrai, comme on l'a affirmé, qu'il se soit donné la mort et que son suicide ait eu pour cause une dernière infidélité de Thérèse, il y a quelque chose de grand encore dans l'égarement de sa funeste résolution. Il voit que toute sa vie de pardon ou de réparation envers cette femme a été une illusion déplorable, qu'il ne lui est plus possible de vivre avec elle sans la mépriser, qu'il lui a en vain sacrifié son repos et son honneur, qu'il va emporter dans la tombe une tâche ineffaçable. Il embrasse Thérèse et meurt sans se rétracter. Voilà Rousseau tel que je le conçois, tel que vous l'arrangez, et tel que nul ne peut me prouver pourtant qu'il n'ait pas été. En résumé, vous le laissez blanc comme neige à l'idolâtrie de la postérité. Non, monsieur, je n'approuve entièrement Rousseau dans aucun de ces partis extrêmes qui le caractérisent. Je crois qu'il s'est suicidé toute sa vie pour céder au besoin que son cœur éprouvait de réparer les erreurs de son imagination ou les emportements de son caractère. Je crois qu'il n'a jamais su ni aimer ni haïr, parce qu'il a trop vivement subi le ressentiment et la tendresse, le soupçon et la confiance. Il a combattu la fatalité de son organisation sans pouvoir la vaincre. Je crois qu'il a manqué de force physique et de courage moral au bout de la lutte, et que l'infortuné, après avoir trop passionnément défendu sa cause, l'a trop abandonné. Ce qui a pu lui donner le change à sa dernière heure, c'est qu'il s'est senti emporté par cette fièvre qui lui faisait chercher le sublime, pardonner trop et s'immoler follement. Tout a été là pour lui en ce moment suprême. Je trouve donc à reprendre à sa vie et à sa mort, à ses ouvrages et à son caractère. On ne lui a pas reproché sans raison le paradoxe à certains égards et l'orgueil exigeant en certaines occasions. Rousseau appartient à la critique et sera toujours le digne objet de son examen sévère et impartial. Il nous appartient, à tous, tant que nous sommes, de l'interroger et de le discuter. Mais je crois que certains incidents de cette vie privée, dont on a fait tant de bruit et qui l'ont tant préoccupé lui-même, devraient être voilés jusqu'à nouvel ordre. Les temps ne sont pas accomplis. Rousseau n'est pas jugé. Il est trop près de nous. Son souvenir est encore trop lié à nos propres orages pour que nous puissions équitablement l'absoudre sans réserve ou le condamner sans appel. Il y a bien d'autres morts illustres dont le procès n'est pas jugé et ne le sera peut-être jamais. Entre autres, Jean-Baptiste Rousseau, contemporain de Jean-Jacques, qui mourut en protestant au nom du Christ contre la calomnie. La postérité se fait juste comme Dieu dans les âmes justes, c'est-à-dire qu'elle efface ce qui l'empêcherait de pardonner. Si Dieu absout le mal en connaissance de cause, que doit faire l'homme quand il ne peut lever le voile de la vérité? Il doit rejeter comme nul tout ce qui n'est pas prouvé. Si l'œuvre laissée par l'accusé est bonne et belle, et témoigne de la pureté de ses intentions. Voilà, du reste, ce que fait l'histoire à mesure qu'elle regarde plus loin en arrière. Elle absout l'homme qui a pu blesser ses contemporains, en faveur du bienfait dont son œuvre a doté l'avenir. Fin de la section 5. Enregistrée par Stéphanie.